Nous sommes le jeudi 29 septembre, il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une, la Floride balayée par l'ouragan Ian, des vents qui vont à plus de 250 km/h, inondations, gigantesques coupures de courant, plus de 2 millions d'habitants sont privés d'électricité ce matin. Nous ferons le point en direct avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis dès le début de ce journal. Une information Europe 1 également confirmée par Matignon, le gouvernement s'en remet à la concertation sur la réforme des retraites. Pas d'amendement, mais un projet de loi en bonne et due forme. Et puis dans ce journal également, Camailleux, c'est fini. L'enseigne est placée en liquidation judiciaire. Elle mettra la clé sous la porte samedi après 38 ans d'existence. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Floride attendait le choc. Elle n'avait peut-être pas prévu son intensité. L'ouragan Ian a frappé ses côtes hier soir. Depuis, il balaie tout sur son passage. On va tout de suite faire le point de la situation en direct avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour à tous.
Alexis, même si l'heure n'est pas encore au bilan, les dégâts semblent déjà très importants.
Oui, dégâts très importants, notamment sur la côte ouest de la Floride, dans cette région où Ian a touché terre en milieu d'après-midi. Des villes d'abord balayées par les vents et la pluie, puis par la montée des eaux, des arbres, voitures et parfois les maisons emportées par les flots. De l'eau jusqu'à environ 2 mètres de haut là-bas qui a envahi le rez-de-chaussée de nombreuses habitations. Des inondations catastrophiques selon les autorités qui dans plusieurs comtés disent recevoir des appels à l'aide de personnes coincées chez elles. Mais il est toujours difficile à l'heure actuelle de chiffrer et de saisir l'ampleur des dégâts. 2,5 millions de Floridiens avaient reçu un ordre d'évacuation. On ne sait pas combien ont décidé de le suivre. À l'heure actuelle, plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité en Floride. Alors cette nuit, Ian a continué sa course vers le nord-est. Certes, il a perdu de sa puissance en touchant terre, désormais rétrogradé en catégorie 1, mais il reste extrêmement dangereux. L'ouragan se trouve actuellement au-dessus du centre de la Floride, à l'est de Tampa. Et là encore, la principale inquiétude reste la montée des eaux dans un État qui commence à comprendre qu'il est en train d'être balayé par l'un des 5 ouragans les plus puissants de son histoire.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis.
Ouais, Europe 1 7h03, retour en France, l'Élysée a tranché. La réforme des retraites va faire l'objet d'un projet de loi. Il sera présenté au Parlement au début de l'année prochaine.
Europe 1 vous le révélait ce matin et la confirmation est venue de Matignon il y a moins d'une heure. Ce projet de loi sera bien précédé d'un nouveau cycle de concertation avec les syndicats et les partis politiques. Arthur Delaborde, les grandes lignes de cette réforme et de son mode d'application ont été définies hier soir lors du dîner organisé à l'Élysée.
Oui, la base des discussions, c'est celle posée par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, à savoir un recul progressif de l'âge légal de départ de 62 à 65 ans d'ici 2031. On est sincère sur cette concertation, on s'y engage en toute bonne foi, souligne un participant au dîner d'hier soir à l'Élysée. S'agissant de la méthode, si le dialogue fonctionne, un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale sera présenté au mois de décembre, avec un vote au Parlement à la fin de l'année ou au plus tard début 2023. À défaut, si on voit que les discussions n'ont aucune chance d'aboutir, il n'y aura aucune raison d'attendre et nous déposerons immédiatement un amendement au budget de la sécurité sociale, prévient un poids lourd de la Macronie. Ces deux hypothèses permettront, quoi qu'il arrive à l'exécutif, de brandir le 49-3 sans difficulté en cas de blocage, puisque le recours à cet article de la Constitution est illimité pour faire passer les textes budgétaires.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Ce n'est peut-être pas un hasard, cette confirmation tombe alors que les syndicats lancent une première journée de mobilisation pour les salaires et contre la réforme des retraites ce jeudi.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, la considère comme une première étape. Deux autres centrales, la FSU et Solidaire, ont accepté de suivre le mouvement. Au moins 200 rassemblements prévus partout en France aujourd'hui. Mouvement suivi par les enseignants. Un professeur sur 5 devrait faire grève. Côté transport, la SNCF prévoit un trafic normal. La RATP prévoit un trafic normal dans le métro parisien. Et 3 RER sur 4 côté SNCF. Peu de perturbations attendues sur les TGV.
Camailleux, c'est fini. La marque de prêt-à-porter va fermer ses 514 magasins samedi à 23h.
L'enseigne va disparaître après 38 ans d'existence. 2600 salariés vont perdre leur emploi. Le tribunal de commerce de Lille a tranché. Après 2 redressements judiciaires, l'entreprise n'est toujours pas viable. C'est donc la liquidation. Le coup est très dur pour les employés qui se demandent comment on a pu en arriver là. Reportage à Roubaix de Maximilien Carlier.
Ce qui se disait sur Camailleux, une enseigne vieillissante, des magasins démodés. Pour justifier la perte du chiffre d'affaires, la direction évoquait la pandémie, la guerre en Ukraine. Un argumentaire auquel ne croient pas Maria Cristina et Bénédicte, deux salariés.
C'est la faute de tout le monde.
De tout le monde.
Sauf la leur.
Le Covid, la cyberattaque, l'Ukraine, les containers trop chers.
Je pense qu'avec une mauvaise gestion, je dis pas que ça aurait été facile, mais avec une très très bonne gestion, on n'en serait pas là.
C'est un immense gâchis, regrette-t-elle. La financière immobilière bordelaise, qui a repris la marque de prêt-à-porter il y a 2 ans, avait lancé un grand plan de transformation. Objectif, retrouver un équilibre cette année. Elsa, employée chez Camailleux depuis 5 ans.
On a cru au projet au démarrage et puis depuis quelques mois, on savait très bien que la situation était critique et même si in fine c'était probablement inéluctable, on avait encore l'espoir que ça puisse encore durer quelques jours, quelques mois.
Mais non, ajoute-t-elle, rien, la liquidation, Camailleux disparaît et c'est dramatique, insiste cette salariée. Samedi, les boutiques fermeront, ça va laisser un immense vide dans le cœur des Françaises. Roubaix, Maximilien Carlier, Europe 1.
Europe 1, 7h06. Qui a saboté les gazoducs de la mer Baltique? Question pour l'instant sans réponse. En attendant, les Européens décident de relever la sécurité de leurs propres installations.
L'ONU convoque un conseil de sécurité demain à la demande du Kremlin. Washington et Moscou se rejettent la responsabilité du sabotage des 2 gazoducs sous la mer Baltique. Pour trouver le coupable, la Suède ouvre sa propre enquête, tandis que la Norvège, autre grand fournisseur de gaz et de pétrole, s'inquiète pour ses propres installations. Bonjour Nicolas Tonnef.
Bonjour à toutes et à tous.
Nicolas, les Norvégiens vont renforcer la surveillance de leur pipeline.
Oui, la première raison, celle qu'évoquait hier un officier supérieur norvégien, les livraisons de gaz du pays sont probablement la cible la plus grosse et stratégiquement la plus importante pour un sabotage dans toute l'Europe à l'heure actuelle. La Norvège expose en pleine mer des dizaines de plateformes d'extraction pétrolière ou gazière, des centaines de kilomètres d'oléoduc ou de gazoduc. L'un d'eux, Norfra, long de plus de 800 km, rejoint d'ailleurs Dunkerque pour alimenter la France directement. Deuxième raison alimentant l'inquiétude norvégienne, depuis le début du mois, des drones de différentes tailles viennent régulièrement observer les installations offshore. Plusieurs enquêtes de police sont déjà en cours pour déterminer l'origine des machines et la nationalité des pilotes. Le Premier ministre norvégien a annoncé que l'armée commençait un suivi plus actif de ce qui se passe en mer, dans l'air, sur terre, sous l'eau et sur Internet. Dans la ligne de mire de cette inquiétude, indirectement désignée comme la seule menace potentielle, la Russie et ses moyens sous-marins capables d'atteindre les gazoducs de la région, souvent posés dans les grandes profondeurs.
Nicolas Tonnef.
Cette info qui va intéresser peut-être les futurs propriétaires.
La Banque de France a entendu la demande des banques et des courtiers. Elle relève le taux d'usure, instrument qui plafonne l'ensemble des prêts immobiliers. À partir de samedi, il passera de 2,57 à 3,05% pour un emprunt sur 20 ans. Les acheteurs vont donc retrouver un peu de marge pour financer leur achat.
Et puis nostalgie, quand tu nous tiens, les constructeurs auto se retournent sur leur passé pour mieux séduire leurs futurs clients. Client Citroën annonce le lancement d'un nouveau logo.
Le logo, c'est la signature d'une marque comme Renault et Peugeot. Citroën regarde lui aussi dans le rétroviseur pour voir l'avenir. Il ressort les fameux chevrons de 1919. Aurélien Fleureau.
Les deux chevrons sont toujours là, mais ils retrouvent l'ovale qui les entourait il y a un siècle. Un retour aux sources qui devient une tendance dans le secteur automobile et qui s'explique notamment par une volonté de rassurer dans une période où tout est chamboulé par l'arrivée de l'électrique, explique Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile au cabinet de Deloitte.
Il y a 2 schémas possibles. Le premier, c'est de se réinventer pour proposer une image nouvelle. Un autre consiste à aller réévoquer des éléments du passé pertinents. Dans les cas qu'on peut évoquer, revenir à des époques dites pionnières des marques où elles s'inscrivaient dans une démarche de conquête historique et de création de marché, ce qui correspond de facto à la création du marché des véhicules électriques aujourd'hui.
Et voilà pourquoi les nouvelles voitures électriques de Renault seront des Mégane, Espace, R5 et 4L. Et puis Citroën, tout comme Dacia et Kia récemment, fait ce choix pour démontrer sa modernité, se présenter comme un fournisseur de mobilité et plus simplement comme un fabricant de voitures. Ce chevron façon 1919 apparaîtra sur un concept de véhicule qui sera dévoilé aujourd'hui et sur toute la gamme à partir de mi-2023.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Merci Christophe Lamar. À suivre sur Europe 1, un témoignage choc dans un instant. La maman d'un des gendarmes mis en cause dans l'affaire Adama Traoré prend la parole sur Europe 1.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Le 19 juillet 2016 à 19h05, Adama Traoré décède après avoir été interpellé par les gendarmes. Depuis, sa famille et le comité Vérité pour Adama imposent leur récit dans les médias. Une guérilla juridique aussi, érigeant la mort de ce jeune homme en symbole de la violence policière et d'un hypothétique racisme d'État. Une femme
prend la parole aujourd'hui à travers un livre pour faire entendre un autre son de cloche. Elle est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Virginie Gauthier.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la mère de l'un des trois gendarmes qui est impliqué dans l'interpellation d'Adama Traoré. Votre fils, dites-vous, n'est pas un assassin. C'est le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui, écrit avec le journaliste Erwan Seznek. Livre, dites-vous, pour rétablir la vérité. Je vais en lire les premiers mots et je vous laisse la parole, Virginie Gauthier. Les Traoré ont perdu un fils, un frère, un demi-frère. Leur douleur mérite respect et considération, mais ça n'excuse pas tout. Dévaster d'autres vies ne ressuscitera pas Adama Traoré. Votre vie, celle de votre fils, sont dévastées depuis ce soir funeste de juillet 2016.
Oui, depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on subit un acharnement... excusez-moi, mais médiatique.
Mais dites-le, parce que c'est très important.
Un acharnement médiatique, voilà, qui fait qu'il n'y a pas eu de place à dire autre chose. Et depuis 6 ans, et ça continue, c'est extrêmement douloureux à vivre. Nous résistons comme nous pouvons. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à résister. Comme si vous avez lu le livre, vous avez pu voir que j'étais gravement malade.
Oui, parce que alors vous racontez ce qui se passe dans les premières heures. D'abord l'incompréhension, la prise de conscience de ce qui se produit. Cet appel de votre fils qui vous dit « Maman, vous n'habitez pas dans le coin de Beaumont-sur-Oise.
Non.
Est-ce qu'on peut venir chez toi ?» Là, ça devient fou ce qui se passe.
Hein. Oui, tout à fait. C'était un appel à l'aide, un besoin de se ressourcer aussi. Parce qu'effectivement, je suis sa mère, je suis une maman. Il a choisi un métier qui n'est pas un métier facile à faire. Et c'est vrai que je m'attendais à beaucoup, beaucoup de choses,
oui.
Mais pas à ça.
Oui.
Ce qui se passe depuis 6 ans est extrêmement violent à vivre.
Oui.
Lire à chaque fois qu'on ouvre le journal, et c'est une surenchère de pire en pire, puisque maintenant, c'est carrément un assassinat, mais prémédité avec vengeance.
Oui.
Et pour moi, c'est incompréhensible.
Oui. Vous dites dans ce livre... Qu'en se crée le comité Vérité pour Adama, vous vous sentez rejeté dans le camp du mensonge, puisque vous êtes du côté des gendarmes, vous avez cette phrase terrible, vous dites « Le 20 juillet 2016, quand l'affaire commence à être connue, vous devenez la mère du meurtrier. »
Oui, c'est ça, exactement. Je suis la mère d'un meurtrier.
Oui.
Et ça fait 6 ans que je garde le silence. Et en ce moment, avec évidemment la presse qui relaie un peu la sortie du livre, il y a des gens qui me connaissent ou qui me reconnaissent. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est ta femme, c'est toi. C'est que...
Oui.
Mais c'est pas possible, tu vis ça. Et l'ensemble me dit, mais c'est pour ça que tu avais l'air si triste. Et c'est vrai que je me rends compte que sans faire attention, je portais ça tout le temps sur moi.
Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas partagé ça.
Non, non, je voulais pas ni avec mon fils d'ailleurs.
Mais pourquoi d'ailleurs?
Parce que j'estime que il a suffisamment à supporter. Il a une femme, il a une petite fille, et je vais pas faire de surenchère avec mon propre chagrin, ma propre difficulté à vivre cette situation.
Oui. Alors lui, étant gendarme, il est tenu évidemment au devoir de réserve. Hein.
Tout à fait.
C'est aussi un livre que vous avez écrit en pensant beaucoup à lui.
J'ai pensé beaucoup à lui, mais je parle pas en son nom.
Oui.
Vraiment pas en son nom. Je parle en tant que mère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de mères de gendarmes et policiers qui peuvent se retrouver dans ce que je raconte.
Ouais.
C'est extrêmement douloureux de voir tout d'un coup son fils devenir un criminel, quoi, et alors qu'il a strictement rien fait et qu'ils ne sont pas mis en accusation du tout.
Alors ce livre, il est très digne, mais vous en voulez à beaucoup de monde et quelque part vous réglez vos comptes avec les médias qui ont pris parti. Avec la justice aussi, ça fait 6 ans que l'enquête n'est toujours pas conclue. Il y a eu 12 juges d'instruction, des dizaines d'expertises. Vous en voulez aussi aux leaders qui se sont emparés de la mort d'Adama Traoré avec un opportunisme et une instrumentalisation des jeunes derrière. Prenons les choses l'une après l'autre, les médias d'abord. Qu'est-ce que vous dites aux médias ce matin? Vous les accusez de vous avoir littéralement lynché, vous, votre fils et tous les gendarmes d'ailleurs.
Tout à fait, tous les gendarmes. Il y a eu un parti pris. Pour moi, c'était extrêmement difficile à comprendre parce que les journaux qui ont pris position étaient mes journaux, entre guillemets. C'est-à-dire c'est des journaux de gauche, Libération, Le Nouvel Obs, Le Monde, enfin tous ces journaux qui étaient Mediapart, qui pour moi ont été des journaux qui ont marqué une grande partie de ma vie, sont devenus des ennemis parce qu'ils n'entendaient qu'un seul discours et qu'ils n'ont fait aucune recherche. C'est-à-dire que quand on a des informations comme celles qui leur ont été données, par on va dire que c'est on leur a donné, on fait un minimum de recherche, on essaye d'appuyer ce qu'on raconte.
Mmh.
Et on ne publie pas directement un communiqué de presse sans en vérifier les sources, sans vérifier que c'est exact. Et parfois en oubliant volontairement ce qui a été dit précédemment. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de totalement incompréhensible.
La justice, maintenant, aussi. La lenteur de la justice.
La lenteur de la justice. J'en veux pas la justice. Je pense que la justice est lente parce que, de l'autre côté, c'est-à-dire pas du côté de mon fils, en permanence, il y a des pièces qui sont apportées. Deux fois, il y a eu un non-lieu. Et les deux fois, la veille de la prononciation du non-lieu, la partie adverse est arrivée avec une nouvelle pièce qui a à nouveau obligé les juges à re-regarder ce qui se passait. Ça fait des années que ça bloque. Et là, on l'a vu dernièrement, même avant qu'on parle encore de mon livre, on est en train de dire, Yacine Bouzrou nous explique que la juge d'instruction...
Donc c'est l'avocate du comité Vérité pour Adama.
Oui, pardon. Que la juge d'instruction n'est pas clean, qu'elle a un parti pris. Et c'est une façon de salir la justice. Et les juges sont vraiment malmenés. Je les plains énormément, mais vraiment.
Il y a cette phrase terrible, vous dites à un moment, sous la plume d'Erwan Seznek, dans beaucoup de faits divers qui ont dégénéré en émeutes de banlieue, des policiers, des gendarmes ont été mis en examen, suspendus, jugés, parfois condamnés. Il n'y a pas d'impunité systématique en France. Dans l'affaire Adama Traoré, au contraire, plus de 5 ans après les faits, plus de 6 ans maintenant, au terme de centaines d'actes d'instruction, personne n'a été mis en examen. À aucun moment, les gendarmes n'ont été suspectés de quoi que ce soit par la justice.
Tout à fait. Ils ont subi des enquêtes, ils ont été entendus à plusieurs reprises et il n'y a toujours rien contre eux. Mais il n'y a rien parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier est une coquille vide qui est remplie de centaines et de centaines de documents qui tendent à prouver qu'ils sont coupables, mais parce que c'est les autres qui les produisent. Mais il n'y a rien. Enfin, je veux dire, les autopsies montrent qu'il n'y a rien. Deux autopsies qui ont été faites montrent qu'il n'y a rien. Les médecins ont prouvé qu'il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment face à quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'incompréhensible.
Alors, ce livre, vous dites, c'était pour rétablir la vérité, rééquilibrer la balance dans les propos. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Virginie
Gauthier ? Que ça s'arrête. Excusez-moi. Je suis à bout. J'en ai marre. J'en ai. C'est plus possible. Faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter pour qu'on reprenne tous un rythme normal.
Je peux vous demander comment il va votre fils aujourd'hui ?
Écoutez, il vit, il survit, et il attend.
Ça fait 6 ans que ça dure. Merci Virginie Gauthier d'être venue sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, « Mon fils n'est pas un assassin », c'est écrit avec Erwan Seznek et ça paraît ce jeudi aux éditions Robert Laffont. Merci à vous, bonne journée.
Merci beaucoup.
Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe Matin. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Voilà, souffrance dans un autre registre ce matin aussi. On parle de l'entreprise Camailleux qui a été placée donc en liquidation judiciaire. Clap de fin pour Camailleux après 38 ans d'existence.
Ouais, et peut-être clap de fin du quoi qu'il en coûte, le retour à une forme de vie économique normale. Bon, Camailleux, c'est évidemment l'entreprise de prêt-à-porter féminin dans le nord de la France. C'est important, Plus de 500 magasins, plus de 2000 emplois. Dans un secteur difficile, le prêt-à-porter, la concurrence est forte, les marges sont faibles, les prix de vente sont en baisse. Il y a la concurrence de la seconde main, la concurrence des ventes en ligne, des coûts de production en hausse. Bon, le commerce est soumis à des pressions et à des changements et malheureusement, Camailleux n'a pas su y faire face.
Est-ce qu'on peut dire, Nicolas, que les pouvoirs publics dans cette affaire, surtout sur la fin, n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas tendu la main à Camailleux
Écoutez, je ne pense pas, Dimitri. En France, les pouvoirs publics soutiennent beaucoup l'économie. Faire plus, c'est tomber dans une économie administrée. Alors, dans le dossier Camailleux, vous le rappelez, c'est vrai, l'État a refusé d'aller au pôle. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui est une personne raisonnable, a considéré qu'on ne pouvait pas affecter l'argent des contribuables à une cause économique jugée perdue. Je pense aussi, même si ça n'est pas dit explicitement, que le gouvernement préfère mettre de l'argent public dans l'industrie plutôt que dans le commerce. Bon. Le soutien de l'État et des banques pendant la pandémie, il a été très important. Il a abouti à la multiplication de ce qu'on appelle les entreprises zombies, vous savez, c'est-à-dire des entreprises qui survivent non pas grâce à leur rentabilité, mais grâce à leur financement. Ces entreprises, elles ne sont pas productives et elles ralentissent la croissance.
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les salariés de Camailleux, Nicolas ?
Oui, c'est la grande question. Alors, la situation sur le marché du travail est bonne, y compris dans les Hauts-de-France, où le chômage baisse assez rapidement. Les vendeuses et les vendeurs de Camailleux vont retrouver un emploi. Les commerçants recrutent beaucoup. Pour les employés du siège social, c'est à Roubaix, ce sera un peu plus compliqué. Mais je rappelle que cette région, qui est dirigée, chacun le sait, par Xavier Bertrand, elle est dynamique économiquement. Elle est même en plein renouveau. Il y a 3 usines de batteries, vous savez, les fameuses gigafactories. Il y a le port de Dunkerque, qui est le 3e en France, qui marche bien. Il y a le projet de canal Seine-Nord qui a été relancé. Vous savez, ce canal qui part de l'Oise, qui traverse la région, dont les travaux génèrent déjà beaucoup d'emplois. Bon, voilà, Camailleux, c'est fini, mais l'économie change. Il ne faut pas sauver ce qui est démodé, mais laisser se développer les secteurs d'avenir. Mais finalement, si j'essaie de voir le bon côté des choses, c'est peut-être aussi ce qu'on est en train de réussir en France et en particulier dans cette région.
Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Merci à vous, 7h23.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
Que retenir de l'actualité? Le journal permanent, Alban Le Prince sur Europe 1.
Plus de 2 millions de foyers privés d'électricité en Floride, balayés par l'ouragan Ian, des pluies torrentielles et des vents violents. Plus de 200 km/h ont été enregistrés dans la soirée. Le bateau a quitté Marseille hier soir. 1000 tonnes de matériel d'aide pour l'Ukraine, l'acheminement humanitaire le plus important depuis le début de l'invasion russe. Il contient par exemple des véhicules d'incendie, de secours ou encore des groupes électrogènes. À Marseille, mais aussi Paris, Perpignan, Bordeaux, mobilisation pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, l'exécutif s'attend à une mobilisation assez light. Des difficultés à prévoir dans les transports. 20% des enseignants sont en grève.
Cet adversaire, allô, c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Plusieurs syndicats appellent ce jeudi à la grève générale contre la réforme annoncée des retraites. Souvenez-vous, si vous étiez là il y a 27 ans, cette fin de mois de septembre, se préparait le mouvement social le plus important depuis mai 68. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vous revenez en archives ce matin sur les grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé.
Oui, des cheminots, des enseignants, des professionnels de santé descendent dans les rues. Alain Juppé, qui est alors le tout premier ministre du président Jacques Chirac, envisage l'allongement de la durée de cotisation de 37 à 40 années pour les fonctionnaires, et cela ne passe pas.
Tout le monde voit dans la rue, public comme privé.
Et tout le monde est concerné, en fait, c'est simple.
Et le plan pour les retraités, c'est dégueulasse.
Ils ont tous Alain Juppé dans le collimateur.
Au chômage, il va y aller.
Des dizaines de milliers de personnes manifestent. Sans transport public, la France est paralysée. À certains endroits, aucun train ne roule. Il y a même des voies où les rails commencent à s'oxyder. Le directeur général de la SNCF présente ses excuses à ceux qui doivent prendre le train.
Nous voulons présenter nos excuses à nos clients. Nous sommes en pleine concertation. Nous parlons, nous discutons avec les organisations syndicales. Et donc, nous ne comprenons pas très bien pourquoi ce mouvement aujourd'hui.
Mais la grève est reconduite à la SNCF et les cheminots en grève sont rejoints par des salariés de la RATP, de la Poste ou encore de France Télécom.
Alors peu de gens l'imaginent au départ, Laure, mais cette grève va durer et se poursuivre jusqu'au milieu du mois de décembre.
Et le Premier ministre Alain Juppé prend la parole le 6 décembre 1995. Cela ne peut plus durer, dit-il.
Il n'est plus possible de continuer comme cela. Je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur.
Mais les grévistes, voyant ce mouvement d'ampleur, ont l'espoir de transformer en partie la société. Le leader de Force ouvrière, Marc Blondel, s'exprime au milieu du mois de décembre.
Non, ce n'est pas un baroud d'honneur. Au contraire, je dirais que ça monte. Au fur et à mesure qu'il y a ce débat, les gens prennent conscience de la réalité de la chose. Lorsque je leur ai dit « on est en train de nous voler nos cotisations sociales », ils m'ont regardé en disant « il est fou le Blondel ». Les gens ont parfaitement compris maintenant.
La barre des 2 millions de manifestants est atteinte. Alain Juppé finira par retirer son projet de réforme et ses grèves de 1995 ont été à l'époque les plus importantes que le secteur public ait connues depuis 1968.
Merci beaucoup Laure d'Autriche. Alors la guerre des retraites aura-t-elle lieu? On en reparle avec Alexis Brézet du Figaro, ce sera l'édito politique sur Europe 1. Tout à l'heure à 8h10, dans un instant, la météo et le journal.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Il nous empoisonne la vie, le bruit ce matin, on en parle sur Europe 1, la pollution sonore, une facture colossale pour le pays. Alors combien et surtout pourquoi? Explication dans un instant. Pas de passage en force, mais des discussions, de la concertation. L'exécutif temporise sur la réforme des retraites. Matignon annonce ce matin un projet de loi pour les prochains mois. Et puis à Roland-Garros, le sable va remplacer la terre battue pour quelques jours. Le cours central accueille un tournoi de beach volley. Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Ça fait du bien. Hein.
Ah, ça détend.
Voilà ce qu'on rêverait tous d'entendre en ouvrant nos volets le matin. Bon, en général, ça ressemble plus à ça. Hein.
Ouais.
Alors au choix...
Oh, pas avant 8h normalement. Hein.
Oh, quoique, on a soit...
Je crois que le gros œuvre c'est 6h.
Ouais. Voilà, un chantier devant chez vous, c'est ça, des embouteillages hein, sur le chemin du travail. Le bruit du matin au soir, une pollution sonore que l'on ne supporte plus, surtout depuis le silence des confinements. Et en plus, ça coûte cher à la France, 147 milliards d'euros chaque année. Chiffre de l'Agence de la transition écologique. Geoffrey Branger, à quoi correspond cette facture colossale ?
Eh bien, elle s'explique par une série d'effets pervers engendrés par notre mode de vie. Fanny Mietlicki, directrice de Bruit Parif.
Le trafic routier, mais on a aussi les autres sources de transport, hein, ferroviaire, aérien. Et en tout, le bruit des transports, ça représente à peu près les deux tiers de la facture de ces 147 milliards d'euros par an.
Le tiers restant regroupe les bruits au travail et les bruits de voisinage. Ensuite, tout fonctionne en cascade. Ces troubles vont entraîner des problèmes sanitaires, perturbations du sommeil, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète ou encore troubles de la santé mentale. S'y ajoutent des paramètres non sanitaires, comme la perte de productivité dans les entreprises ou la dépréciation de biens immobiliers. Et au final, ce qui justifie 86% de cette facture, c'est que les Français, exposés à trop de bruit, sont en mauvais état physique et mental. Perdre une année de vie en bonne santé, selon les économistes, ça représente 130 000 euros. C'est en additionnant tous ces facteurs que les chercheurs sont arrivés à ce coût colossal des nuisances sonores.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1.
Alors du bruit, il y en aura aussi dans la rue aujourd'hui.
200 rassemblements prévus en France, journée de mobilisation à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires. Leur slogan est clair, augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite.
Et une réforme que l'exécutif promet désormais sans passage en force, il a tranché sur la méthode.
Oui, la première ministre annonce ce matin de nouvelles concertations avec les partenaires sociaux et les oppositions. Des discussions avant un projet de loi à part entière, adoption avant la fin de l'hiver pour une application à l'été prochain. 7h33 sur Europe 1, une génération biberonnée à des contenus toujours plus violents, humiliants, dégradants. Une phrase choc pour un rapport choc, celui de 4 sénatrices sur l'industrie de la pornographie en France.
Oui, rapport intitulé « Porno, l'enfer du décor hein, » qui tombe déjà après une alerte des professionnels de la petite enfance dénonçant une porno-pandémie. Deux tiers des moins de 15 ans ont déjà été confrontés à des images pornographiques.
Et pourtant, ces mineurs ne devraient pas avoir accès à ces sites réservés, vous le savez, aux adultes. Plus de vérification, voilà la clé pour ces parlementaires. Une équation compliquée tout de même, hein, Céline Géraud.
Oui, car pour contrôler l'âge de ces consommateurs de contenu pornographique, il faut vérifier leur identité tout en protégeant leurs données personnelles. Le Sénat propose donc plusieurs pistes. La plus drastique, bloquer tout simplement tous les sites qui proposent des vidéos sans contrôle de l'âge des utilisateurs. Déréférencer ces sites sur les moteurs de recherche comme Google ou encore automatiser l'affichage d'un écran noir au moment de la connexion sur ces plateformes le plus souvent gratuites. L'objectif, protéger les plus jeunes. Annick Billon, sénatrice UDI et co-auteur de ce rapport.
Les psychothérapeutes que nous avons auditionnés nous disaient que le visionnage d'images pornographiques pour des mineurs s'apparentait à un viol psychique.
Sont également à l'étude des dispositifs de reconnaissance faciale par intelligence artificielle ou encore l'utilisation d'une carte bancaire ou d'une pièce d'identité, le tout contrôlé par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Enfin, dernière préconisation, la mise en place d'un contrôle parental automatique dès qu'un abonnement téléphonique est souscrit pour un mineur et quel que soit l'opérateur.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. 7h35, jamais la France n'a envoyé une telle cargaison à l'Ukraine. Un navire a quitté le port de Marseille hier, 1000 tonnes d'aide humanitaire chargées donc sur l'Aknoul. C'est le nom de ce navire que notre correspondant Stéphane Burgat a visité pour Europe 1.
Dans la cale, des camions de pompiers, des abris, mais également des conteneurs chargés à ras-bord, entre autres de médicaments, collectés par l'association Tulip d'Alexandre Laridan.
On a collecté environ 16 tonnes qui sont aujourd'hui dans le bateau. Et dans la plupart des opérations humanitaires, c'est ça qui est le plus important, c'est le médicament, c'est justement les traitements chroniques. Si on ne les a pas, on ne peut pas survivre. Diabétique, hypertension artérielle, voilà ce genre de maladies chroniques.
Au total, 1000 tonnes d'aide humanitaire à destination des populations ukrainiennes. C'est sans précédent depuis le début du conflit, selon Stéphane Romaté, le directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères.
Nous estimons que la valeur du chargement serait aux alentours d'une dizaine de millions d'euros. Nous avons, depuis le début de la guerre, mené une trentaine d'opérations différentes. Et donc celle-ci est, je dirais, la plus importante en volume et puis aussi par le nombre de partenaires. Ça a été complexe à monter. Vous voyez, regrouper le fret, le conditionner, tout ça. Donc c'était une très grosse opération logistique.
La CNUL débarquera prochainement dans le port roumain de Constanza. L'aide humanitaire sera ensuite répartie en Ukraine dès la mi-octobre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
La guerre en Ukraine devenue une guerre aussi de l'énergie. Vous le savez, la crise va chambouler également l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 en France.
Oui, c'est pour ça que le Conseil Olympique se réunit aujourd'hui à l'Élysée. Autour de la table, Emmanuel Macron, ministre et élus locaux. À l'ordre du jour, le budget qui doit être revu à la hausse, plus 300 millions d'euros par rapport à la facture initiale de la compétition.
Les JO qui démarrent très exactement dans 673 jours. Pour le tennis, vous aurez rendez-vous à Roland-Garros.
Oui, évidemment, le temple de la terre battue, oui, mais pas seulement en fait, puisque la porte d'Auteuil a déjà accueilli un combat de boxe et dès aujourd'hui des joueurs de beach volley sont attendus sur le court central. C'est donc dans un stade métamorphosé que nous emmène Axel May pour Europe 1.
Un terrain de beach volley façon bac à sable géant recouvre la célèbre terre battue du court central de Roland-Garros, décrit l'organisateur de l'événement, David Donnelly.
Elle est là, elle est en dessous. Elle est en dessous, on l'a laissée, on l'a pas touchée. C'est la terre battue qui était là au mois de mai-juin pour le tournoi. Et on est venu, c'est vrai, y poser bon, d'abord une protection, bien sûr. Et ensuite, un gros bac à sable qui accueille environ 250 tonnes de sable. Donc c'est un gros défi logistique. C'est du sable qui vient de la région parisienne, qui repart ensuite dès lundi dans les installations sportives de la région parisienne aussi. On est en circuit court.
Alors 15 000 spectateurs sont attendus d'ici dimanche avec des sessions nocturnes et des prix volontairement attractifs à partir de 7 euros la place. L'ancien international de volley, Julien Linel, vient de se reconvertir au beach.
À jamais, on sera les premiers à avoir fait du beach volley à Roland-Garros, donc ça c'est une... je suis honoré. C'est vrai que je pourrais le dire, hein, j'ai joué à Roland-Garros. Après, si on me demande quel sport, je suis pas obligé de dire, j'ai fait Roland-Garros.
Julien Linel qui espère participer aux Jeux de Paris en beach volley. En 2024, les terrains de sable seront installés dans un autre lieu mythique de la capitale, sur le Champ de Mars. Au pied de la Tour Eiffel.
Le reportage d'Axel May du service des sports d'Europe 1. Et puis je vous donne rendez-vous à 10h pour l'affiche du jour, France-Chine.
Oui, quart de finale du mondial féminin de basketball. C'est une étape que les Bleus n'ont jamais franchie depuis 1953.
Oui, et puis une disparition pour terminer, parce que qu'on aime ou pas, il faisait partie des légendes du rap américain. Et ça, forcément, on aime Gangsta Paradise de Coolio.
C'est même pas lui qui chante là sur le passage que vous avez choisi.
C'est pas lui qui chante sur le passage.
Ah non, c'est pas lui là, c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était le rappeur là.
Et ben,
Power and the Money.
Très bien.
Money and the Power. Bon, après. Voilà, là, c'est Coolio là.
Voilà.
Bande originale du film Esprit Rebelle.
Et Coolio donc disparu cette nuit à 59 ans.
Voilà. Esprit Rebelle, très mauvais film. Et Coolio, je crois que c'est l'homme d'un single. Mais Anissa me racontait que le film a été projeté sans la bande son avant
sortie. C'est la musique qui lui a donné
et
tout son
voilà,
succès.
40% de taux de satisfaction. Ils ont mis la musique, on est passé à 80% de taux de satisfaction et le film a cartonné. Voilà comme quoi, des fois, la musique, ça change tout. N'est-ce pas, Vincent Herouet?
Oui, oui. Hein ouais. Paroles et musique quand même, mais paroles.
La bande originale de Vincent Herouet. Tiens, je vous demanderai ça. Qu'est-ce que vous écoutez dans votre voiture? Dans un instant.
Europe 1.
Ah, c'est bien, bon réflexe. Les perles de culture de nos deux explorateurs du jour, Marie Jiquel, avec une expo. On entendait des petits oiseaux tout à l'heure. Et ben, oui. On va rester dans l'ambiance. Et Nicolas Caro, pour le nouveau Stephen King. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Ouais, Porsche, ça va valoir plus cher que BMW et Mercedes quand même. C'est assez incroyable. Alors qu'ils vendent beaucoup moins de voitures, évidemment. L'image, forcément. Allez, dans un instant, nos spécialistes de la culture. Le dernier Stephen King avec Nicolas Caro. Et Marie Jiquel pour une expo tout en musique.
On verra si vous savez aussi bien imiter le rossignol que l'un des visiteurs de cette exposition, Dimitri.
Ah bah, on fera le test, on va faire la comparaison. Mais d'abord, bonjour Vincent Herouet, l'édito international à Hong Kong. Le procès très attendu de l'évêque de Hong Kong a été reporté. C'est une figure importante, hein, cet homme de la lutte pour la démocratie. Jugé par Pékin, il est totalement lâché par Rome.
Ah, c'est la version Made in Hong Kong du supplice chinois. Vous prenez un monsieur de 90 ans qui s'entête à croire aux libertés et au bon Dieu, c'est-à-dire s'il se moque du Parti communiste et de son grand leader Xi Jinping. Vous l'arrêtez pour un crime imaginaire. Des mois après, vous commencez à le juger, mais pour un autre délit moins grave. In extremis, vous reportez le procès. Quand enfin il s'ouvre, au premier prétexte, vous levez l'audience et renvoyez l'affaire. C'est un vrai chemin de croix judiciaire pour un nonagénaire. C'est ce que subit Joseph Zen, qui a été arrêté au printemps pour collusion avec une puissance étrangère et qui a été jugé cette semaine pour un délit bureaucratique. Il aurait mal enregistré un fonds qui a financé l'aide judiciaire et les soins médicaux apportée aux manifestants pro-démocratie que la police a jetée aux oubliettes. C'était en 2019 et 3 ans après, effectivement, le monde les a oubliés, ceux-là.
Joseph Zen, c'est l'infatigable défenseur des droits civils et religieux dans l'ancienne colonie.
Alors, et en Chine, en général, ça fait des décennies qu'il ferraille. Les autorités veulent le réduire au silence sans en faire un martyr. Elles espèrent sa mort prochaine. En attendant, elles le maintiennent sous la menace des juges et la pression de la police. Cette épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête lui fait une auréole. Et ça tombe bien puisque Joseph Zen est cardinal, évêque émérite de Hong Kong. La curiosité, c'est que ce prince de l'Église est abandonné par le Vatican. Lors du dernier consistoire, là, qui est tout récent, qui les a réunis, les autres cardinaux l'ont oublié. Pas un mot, pas même une prière. Surtout, le pape a lâché l'évêque de Hong Kong. Il y a 15 jours, François a dit « Le cardinal Zen est un vieux qui dit ce qu'il ressent », autrement dit, un vieux qui ne sait pas tenir sa langue. Le pape François, lui, refuse de qualifier la Chine de pays non démocratique. Il dit « C'est tellement complexe ». Et c'est vrai, c'est complexe. C'était simple. Depuis 5 siècles, les jésuites auraient évangélisé l'Empire du Milieu.
Alors un cardinal allemand dit que Monseigneur Zen a été sacrifié sur l'autel de la raison.
Mais la raison, c'est l'accord provisoire et secret conclu avec Pékin en 2018. Il permet à Pékin de nommer les évêques chinois avec l'approbation du pape. François veut réunifier l'église clandestine persécutée, qui est restée fidèle à Rome, et l'église officielle que le Parti communiste a fondée et qu'il contrôle. Joseph Zen y voit plutôt un pacte avec le diable. Et l'histoire lui donne plutôt raison parce que depuis 4 ans, la persécution anticatholique a empiré. Cette répression va de pair avec la reprise en main de Hong Kong, la campagne contre les Ouïghours, les menaces sur Taïwan. Le procès du cardinal, reporté fin octobre, va tomber en pleine renégociation de l'accord. Le régime chinois jugera ensuite le cardinal pour collusion avec une puissance étrangère. Le cardinal Zen reste très zen. La seule puissance qui compte à ses yeux n'est ni à Rome, ni à Pékin. Elle est céleste.
Signature Vincent Hervouet, 7h46.
Europe Matin.
La culture, Nicolas Caro, ce matin. Bien, vous nous parler du King. Je montre la couverture à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr.
Exactement, le King, pas Elvis, l'autre, Stephen King. Il vient de publier Billy Summers chez Albin Michel. Et bon, bah c'est encore un chef-d'œuvre du maître, hein, c'est fou.
Vous dites Stephen King, vous.
On dit Stephen.
Ah, bah je ne savais pas. Oui. Est-ce que c'est dans sa veine fantastique?
Pas cette fois, c'est dans la catégorie rationnelle policière, mes préférés. Alors donc, c'est l'histoire de Billy Summers, un tueur à gages en fin de carrière, 44 ans. Avant ça, il était militaire, maintenant il tue, mais pour de l'argent. 60 000 $ en général, c'est le tarif. En revanche, attention, il a des principes, Billy. Il ne tue que les méchants. Pas la peine de lui demander de liquider un politicien gênant ou un type lambda pour toucher une assurance vie. Vous pouvez allonger toute la monnaie que vous voulez, c'est non. C'est d'ailleurs la première question qu'il pose quand Nick Majarian, un ponte du banditisme qui a déjà eu recours à ses services, lui demande de tuer Joe.
Alors Joe est-il un méchant?
Un sacré tueur à gages lui aussi, mais sans les états d'âme de Billy. Billy qui d'ailleurs a décidé de se ranger. Ce sera son dernier assassinat. Nick Majarian lui en offre 2 millions de dollars.
Ah, ça sent l'embrouille, puisque son tarif c'était 60 000, vous disiez. Ça fait une sacrée différence.
Exactement, ça sent le coup fourré à plein nez, Dimitri. Mais Nick le rassure. Ce sont des gens puissants qui ne veulent pas que Joe balance certaines informations, c'est tout. Or, Joe est en prison en attente de son procès pour tentative de meurtre. Pour meurtre même, Billy accepte parce que c'est du tout cuit. Ce sera au sniper, tranquille, depuis au balcon, quand l'autre arrivera pour son procès. C'est du classique, c'est largement dans ses cordes. La seule chose, c'est qu'il faut attendre et s'intégrer à la population dans un petit quartier résidentiel et ça peut durer des mois. C'est l'occasion pour King de décrire à merveille, comme toujours, la petite vie américaine hors des grandes villes et aussi le métier d'écrivain, parce que Billy va se faire passer pour un écrivain. Mais en fait, cet assassinat n'est pas le cœur de l'intrigue. Et vous avez compris qu'évidemment, tout ne se passera pas comme prévu. Je ne vous dis rien de plus, seulement qu'encore une fois, King non seulement manie le suspense et l'histoire comme personne, mais en plus, il y met la forme. Stephen King, malgré les apparences, est un immense styliste. C'est parfois très compliqué de faire simple, et c'est son cas. Rien ne se voit, mais il y a une prouesse technique par page, et au passage, il crie son amour de la littérature, l'air de rien. Billy Summers, le héros, est lecteur de Zola. Il lit Thérèse Raquin pendant tout le roman, et son pseudonyme est Thomas Hardy, comme l'écrivain américain. Il y a aussi des clins d'œil discrets à toute l'œuvre de King. Bref, pour ceux qui aiment déjà Stephen King, aucune déception. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah tiens, c'est un bon moyen de commencer.
Il y a des gens qui ne connaissent pas Stephen King.
Ouais, ou qui n'ont jamais lu, qui ont vu les films. Voilà. On les connaît.
Voilà. Billy Summers, donc Stephen King, c'est paru, ça paraît chez Albin Michel. Allez, Marie Gicquel, des chants d'oiseaux, d'insectes, de baleines à deux pas du périph' parisien. Voilà l'ambiance. Direction la Philharmonie de Paris pour l'exposition Musique animale, qui nous fait entendre donc les sons du vivant, la partition du monde animal.
Tout à fait. C'est un événement qui apaise les vigiles.
Dis donc, monsieur, là, c'est relaxant pour vous.
Ouais, super bien.
Vous aimez l'exposition?
Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous fermez les yeux?
Non, je travaille avec mes yeux, je ne peux pas fermer les yeux. Hein.
Mais l'événement inspire aussi les visiteurs à la sortie.
C'est le rossignol et le canard.
Ah ouais.
C'est un canard qui a faim, ça.
Très faim, qui attend son œuf mayonnaise. Alors,
que se racontent les bêtes? Des mélodies, des sons pour avertir du danger, séduire ou tout simplement se faire entendre. Le parcours nous invite à reproduire ces bruits, notamment à l'aide de petits instruments. Ça, vous avez sans doute reconnu, Dimitri.
Je froisse Mandel de la chauve-souris.
Le
non, je sais
chant
pas.
D'un groupe des tourneaux à l'aide de petits tuyaux.
Maintenant que vous le dites.
Alors voilà, d'une salle à l'autre, on pose notre sac de couchage en plein milieu d'une forêt à l'écoute des grenouilles et des grillons et on s'offre un petit plongeon dans cette alcôve consacrée aux cétacés, ambiance paradis blanc. Marie-Pauline Martin est la directrice du musée de la musique de la Philharmonie.
On ne connaissait pas le chant des baleines avant les épisodes de guerre mondiale, notamment la deuxième, où il a fallu attendre que les sous-marins, avec leur sonar, en guettant l'ennemi, captent des sons qu'ils ne connaissaient mal. Et ces sons ont été ensuite transmis à des scientifiques pour être étudiés, puis ensuite transmis au grand public sous forme d'enregistrement en disque. Et donc ont inondé la planète d'un nouveau son.
Un nouveau son qui a inspiré des compositeurs comme Bartok ou Messiaen. Ils ont imaginé des pièces pour les baleines. Mais l'exposition dévoile aussi des partitions consacrées aux mouches, aux fourmis, aux oiseaux et aux papillons. Et allez, une dernière info pour la route, Dimitri. L'appellation du bruit du coq, notre cocorico, eh bien, en Algérie, cela donne le coco-coco ou en Corée du Sud, le coquillot.
Oui, le kakaruka au Japon aussi, je crois aussi. Mais enfin, chaque langue.
Vous êtes connaisseur.
Le
bestiaire. Vous avez vu l'exposition, c'est
non,
ça
non, non, mais c'est intéressant. Il paraît qu'il y a une séquence bruit des moustiques. Alors, évidemment, vous l'associez spontanément à la piqûre.
Je voulais
mais
éviter.
Mais il y a une mélodie, il y a des harmoniques fabuleuses, paraît-il, chez les moustiques. Musique animale, c'est donc à la Philharmonie de Paris. C'est à voir jusqu'au 29 janvier. Vous m'avez vraiment donné envie d'y aller cette fois, Marie-Jiquel. Bon,
cette
j'avoue.
Fois
ouais.
Tout le temps.
Non, des fois, moins.
Oh, vous viendrez avec moi la prochaine fois.
C'est comme Nicolas, tous les jours ça marche pas. Mais là, ça a bien fonctionné. Voilà. Bravo à tous les deux.
On va passer une bonne journée.
Merci à tous les trois, Vincent également. 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Une quatrième fuite vient d'être identifiée ce matin en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream. Tous les regards se tournent vers la Russie qui a réclamé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain. Les manifestations qui secouent l'Iran depuis deux semaines et la mort d'une jeune femme arrêtée car une mèche de cheveux dépassait de son voile continue. Elle gagne même l'Afghanistan où les talibans ont tiré ce matin pour disperser un rassemblement de soutien aux iraniennes. Et puis clap de fin pour Camailleux, l'enseigne de prêt-à-porter va mettre la clé sous la porte. Samedi soir, elle a été mise en liquidation hier par le tribunal de commerce de Lille. Après deux redressements judiciaires, conséquence, 2600 emplois seront supprimés.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro. Alors ça y est, nous y sommes Alexis. La réforme des retraites est sur les rails peut-être. Après des jours de palabres et d'hésitations, le président de la République a convoqué hier soir le banc et l'arrière-banc de la majorité à l'Élysée pour décider quand et comment on allait faire cette fameuse réforme. C'est la fin du feuilleton là ?
Miracle, miracle. D'après ce que nous savons ce matin, il semblerait bien que oui. Et franchement, il était temps parce que ce feuilleton, comme vous dites, devenait passablement grotesque. À Byzance, alors que les barbares étaient aux portes, on débattait indéfiniment du sexe des anges. Aujourd'hui, alors que l'inflation galope, que la dette explose, que les déficits nous submergent, de quoi discutons-nous interminablement ? Du point de savoir, tenez-vous bien, si la réforme des retraites devait être débattue tout de suite sous la forme d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme le souhaitait Macron, ou bien en janvier sous la forme d'un projet de loi classique comme le souhaitaient Bayrou, la CFDT et une bonne partie de la majorité. Projet de loi ou amendement. Avouez que c'était absolument passionnant.
Et donc, résultat des courses, Alexis ?
Elisabeth Borne l'a fait savoir cette nuit. Ce sont, surprise, les partisans de la temporisation qui l'emportent. La réforme reste urgente, mais elle est un tout petit peu moins. Face à la bronca générale et au risque non nul que ses opposants coalisés votent une motion de censure, Emmanuel Macron, comme nous le disions la semaine dernière, ici même, a finalement choisi de laisser un peu de temps à la concertation. Le texte est toujours censé entrer en vigueur à l'été 2003, mais il ne sera pas examiné avant le mois de janvier. C'était bien la peine de jouer les matamores. Enfin, peu importe, après le mauvais feuilleton, nous allons peut-être passer aux choses sérieuses et peut-être commencer à nous intéresser à ce qu'il y a dans cette fameuse réforme.
Ah oui, ce serait peut-être pas inutile parce qu'en vérité, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette réforme.
Ça, je ne vous le fais pas dire, et parce que c'est bien gentil d'avoir, comme on dit, un véhicule législatif. Mais encore, faut-il savoir ce véhicule pour aller où et avec qui.
Oui.
Première question, parmi d'autres. Allons-nous repousser l'âge de la retraite à 64 ans, parce que 65, plus personne n'y croit, ou allons-nous nous contenter d'accélérer l'augmentation de la durée de cotisation? Contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on repousse l'âge, réforme dite à la Sarkozy-Fillon, on maximise l'effet financier de la réforme et on rapproche la situation des fonctionnaires de celle des salariés du privé. A l'inverse, quand on joue sur la durée, réforme dite à la Hollande-Touraine, on génère deux fois moins d'économies et on favorise les agents du public qui bénéficient, eux, de carrières à vie, de trimestres de retraite offerts ou bonifiés.
Alors, deuxième question, qu'est-ce qui va devenir des régimes spéciaux, Alexis ?
Et là, alors, les régimes spéciaux, on le sait bien, la SNCF, la RATP, EDF, mais aussi la Banque de France, les salariés de l'Opéra, continuent de toucher des pensions de retraite plus élevées et de partir à la retraite nettement plus tôt. Et par le passé, Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises que le système était injuste et qu'il fallait le supprimer. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'en parle plus. Et d'ailleurs, plus personne n'en parle, ce qui est un tout petit peu inquiétant. Enfin, si on veut la réforme.
Vous voulez dire que la réforme des retraites, finalement, pourrait ne pas en être une, finalement ?
Il faut préjuger de rien. Après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais je dis seulement que notre pays a un génie tout particulier pour annoncer des cathédrales réformatrices et ensuite limer, finasser, mégoter, rabioter, étaler dans le temps, consentir à des exceptions, distribuer des compensations, des consolations, des mesures d'accompagnement. Bref, de faire tant et si bien qu'à la fin, il ne reste quasiment plus rien de l'ambition initiale ni des économies envisagées. Cela justifie, me semble-t-il, qu'on soit un tout petit peu vigilant.
Merci beaucoup Alexis Brézé. À la une de votre journal Le Figaro, l'alarmante exposition des enfants à la pornographie. Ce sera le thème d'ailleurs du Club de la Presse à 8h40 avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs, 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le 29 septembre, fête des saints archanges. Michel, l'un des saints patrons de la France, Raphaël et Gabriel, annonciateur de la bonne nouvelle et par là, saint patron des médias. À suivre l'invité d'Europe Matin à 8h13 au micro de Sonia Mabrouk. Nous serons avec Maurice Gourdeau-Montagne, ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, 7h57. Nous sommes le jeudi 29 septembre, il est 8h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Ah ben ça y est, c'est tranché, ce ne sera pas un amendement, mais un projet de loi en bonne et due forme. Alors question ce matin, les retraites seront-elles réformées avant la fin de l'hiver? C'est ce que souhaite en tout cas Elisabeth Borne qui le fait savoir ce matin. Décryptage de cette décision dès le début de ce journal avec Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Justement, premier stress test aujourd'hui pour le gouvernement avec les manifestations pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Faible mobilisation annoncée. Une ambiance de fin du monde en pleine nuit lourde. L'ouragan Yann fait vivre des heures particulièrement difficiles à la Floride. Des vents soufflant à plus de 200 km/h, des inondations monstres, plus de 2 millions de foyers sans électricité. Le point avec le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis dans un instant. Et à 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le sabotage des gazoducs Nord Stream est un événement majeur dans la guerre. Par cet acte, le conflit est sorti d'Ukraine. Jusqu'où ira-t-on? Mesure-t-on vraiment les conséquences? On en parle ce matin avec un grand connaisseur des relations international, l'ancien diplomate Maurice Gourdeau-Montagne, à tout à l'heure.
Mais d'abord le journal de Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça y est, c'est fait. Après des semaines de réflexion, l'exécutif a fait son choix pour faire voter la réforme des retraites. Le gouvernement procédera en deux temps. Concertation d'abord, projet de loi avant la fin de l'hiver, annonce d'Elisabeth Borne ce matin, alors que s'ouvre une première journée de grève contre cette réforme. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Journaliste au service politique d'Europe 1 en direct avec nous. Alors pas de passage en force dans l'immédiat, Jacques, mais Emmanuel Macron est bien décidé à faire faire appliquer son programme de candidat.
Oui, car Emmanuel Macron l'a dit lui-même hier soir lors d'un dîner avec les ministres concernés et les cadres de sa majorité. Avec cette réforme, il joue son autorité. Je ne vais pas lâcher au bout de 6 mois, explique-t-il. Le chef de l'État a donc remis la feuille de route à sa première ministre. Matignon est chargé d'ouvrir un premier cycle de consultation avec les partenaires sociaux et les partis politiques, avec l'objectif d'ici décembre d'aboutir à un texte global, un projet de loi spécifique qui inclurait tous les engagements de campagne d'Emmanuel Macron. Report de l'âge légal de départ, 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, fin des régimes spéciaux et revenu minimum à 1100 euros. Le texte serait alors débattu au Parlement début 2023 et la réforme appliquée à l'été. En cas de blocage, l'exécutif se garde la possibilité d'un retour par la case amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, le locataire de l'Élysée ne compte pas faire dans la demi-mesure. Il a pointé la menace devant ses proches. Si une motion de censure est votée, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée.
Jacques, politiquement maintenant, regardons les choses. Donc c'est un geste d'ouverture que fait l'exécutif, mais en même temps l'affirmation d'une autorité. S'il fait de cette annonce ce matin, c'est qu'au sommet de l'État, on a une certitude, c'est que la mobilisation prévue aujourd'hui n'aura pratiquement aucune conséquence.
Oui, à l'Élysée comme à Matignon, la confiance règne. Aucune inquiétude, lâche dans un sourire un conseiller du président. Et pour cause, le renseignement territorial a fait remonter ses prévisions au sommet de l'État et elles sont plutôt rassurantes pour Emmanuel Macron. À l'échelle nationale, entre 68 000 et 75 000 manifestants tout au plus sont attendus dans la rue, Paris compris. Loin, très loin par exemple de l'acte 1 des Gilets jaunes, quand 288 000 personnes avaient battu le pavé partout en France. Les rues clairsemées de ce jeudi devraient donc offrir un boulevard au chef de l'État.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Grève qui aura tout de même des conséquences sur les transports et dans les écoles aujourd'hui. Près de 20% des enseignants devraient manifester. À Paris, 10% des écoles sont fermées. 48% en Seine-Saint-Denis. 300 établissements dans les Bouches-du-Rhône. Au total, 200 points de rassemblement sont prévus dans toute la France.
Direction maintenant les États-Unis sur Europe 1. Nuit d'angoisse et de destruction en Floride.
Oui, balayé par l'ouragan Yann. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour.
Bonjour à tous.
On se rendra évidemment compte de l'étendue des dégâts quand il fera jour. Il est 2h du matin aux États-Unis, mais on a déjà une idée du calvaire des habitants. 2 millions de foyers privés d'électricité. Alexis, Yann continue sa route vers le nord. Il a été rétrogradé en catégorie 1, mais il reste extrêmement dangereux.
Oui, à l'approche d'Orlando, les vents ont baissé d'intensité, mais les pluies sont toujours diluviennes avec une crainte assistée à de nouvelles inondations catastrophiques comme celles qui ont dévasté un peu plus tôt le littoral dans le sud-ouest de l'État. Là-bas, l'eau a envahi les rues, les maisons. Certains bâtiments ont été emportés dans la région de Fort Myers, cette zone où l'œil de l'ouragan a touché terre et qui s'attend à un bilan dramatique selon Roger Desjarlais. Il est à la tête du comté local.
Je suis triste de vous annoncer que, même si nous ne connaissons pas encore toute l'étendue des dégâts dans notre comté, nous commençons à avoir le sentiment que, d'une certaine manière, notre communauté a été décimée.
Voilà, on sait que dans ce comté, comme dans d'autres, les autorités ont reçu de nombreux appels à l'aide de personnes coincées chez elles par cette montée des eaux. Des zones qui sont encore, à l'heure actuelle, difficiles d'accès pour les premiers secours, mais il va falloir attendre la levée du jour, vous le disiez Fanny, dans quelques heures avant de pouvoir constater et saisir l'étendue des dégâts en Floride. D'une certaine manière, le bilan humain va surtout dépendre du nombre de Floridiens qui ont choisi de rester chez eux. 2,5 millions de personnes ont reçu ces derniers jours un ordre d'évacuation.
Alexis Guilleux en direct des États-Unis pour Europe 1.
Washington a répondu aux attaques russes hier soir. Moscou l'avait accusé d'être responsable du sabotage des gazoducs en mer Baltique.
Pour la Maison-Blanche, c'est ridicule d'insinuer que les États-Unis pourraient être responsables de ces sabotages. Le Kremlin a réclamé pour sa part une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit avoir lieu demain.
Et ce matin, on découvre une quatrième fuite sur l'un des gazoducs Nord Stream. Alerte des gardes-côtes suédois il y a quelques minutes seulement.
Mais il faudra compter une ou deux semaines avant de pouvoir inspecter ces gazoducs endommagés. Des événements qui constituent peut-être un tournant. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Journaliste au service économie d'Europe 1 en direct avec nous. Baptiste, après des décennies à miser sur des gros tuyaux au fond des mers, l'Europe se tourne vers le GNL, le gaz naturel liquéfié qui est livré lui par bateau. Elle a augmenté ses importations de 60% cette année. C'est énorme et c'est le signe d'une grande bascule sur le marché du gaz.
Oui, c'est une bataille mondiale qui se joue sur les mers. Les acteurs, ce sont les méthaniers, des navires de 350 mètres de long qui transportent le GNL, le gaz naturel liquéfié. Liquéfié car sous cette forme, il prend 600 fois moins de place dans les cuves de ces méthaniers. Ce gaz, il vient des États-Unis, du Qatar, d'Algérie, même encore un peu de Russie via Total Energy. Et si les stocks européens sont aujourd'hui remplis à 90%, c'est grâce au GNL qui offre à l'Europe un moyen plus souple de se fournir en gaz. pas de gazoduc, c'est moins de contraintes.
Baptiste, l'Europe a-t-elle trouvé la formule pour sortir de sa dépendance à la Russie en matière de gaz?
Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. D'abord parce que pour importer du GNL, il faut s'équiper de terminaux pour le regazéifier. L'Espagne en possède 6, la France 4, l'Allemagne en est encore dépourvue aujourd'hui. Et puis, le marché du GNL est très concurrentiel. On y retrouve la Chine, le plus grand importateur mondial. C'est elle qui nous a revendu du GNL ces derniers mois. GNL qui venait des États-Unis et d'Afrique et qui a fait demi-tour pour aller en Europe. Et c'est elle qui peut à tout moment décider de conserver ses commandes pour remplir ses stocks et alors faire monter les prix.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
21 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en France depuis 2016. Le chiffre est frappant. Et 4 300 rien que l'année dernière.
Et la faute au Covid et au manque de personnel selon le ministère de la Santé qui a publié ses chiffres hier. Et pour équilibrer la balance, l'hôpital mise de plus en plus sur les soins ambulatoires, c'est-à-dire le retour à la maison après l'opération, fini les nuits à l'hôpital. Mais ce modèle fonctionne-t-il? Le reportage de Johan Tritz.
Paulette attend sagement son taxi sur un banc devant l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Opérée en début de semaine, elle fait depuis des allers-retours chaque jour entre l'établissement et son domicile pour se faire soigner. Une pratique qui l'a convaincue.
Oui, quand on n'a pas de soucis, oui. Moi, c'était la vésicule biliaire. Il n'y avait aucun souci. C'est une opération simple.
Ça fait quand même du bien de rentrer chez soi.
Oui, je trouve.
Les soins ambulatoires, appelés aussi hospitalisation de jour, sont en hausse aujourd'hui, plus 11% en 5 ans, pour pallier le manque de place. Mais il n'est pas question pour le docteur François Venutolo, à l'origine du virage ambulatoire à l'hôpital de Gonesse, de laisser partir le patient à tout prix.
On ne laisse pas partir un malade si on n'est pas certain de la sécurité qu'on peut lui apporter. Si la femme qui s'est fait opérer de la vésicule, le soir quand elle rentre, il faut qu'elle s'occupe quand même des 5 enfants qui restent, plus le mari, plus ci, plus faire la cuisine et tout, vaut mieux la garder.
Pourtant, Eliane Snaoui, chef du pôle jour de médecine à Gonesse, sent bien que le système arrive à ses limites.
On voit bien que là, la pression pèse sur nous de faire sortir nos malades. Clairement, les besoins, on le sent, ils montent en puissance.
Alors qu'elle voit difficilement dans son secteur la possibilité de soigner plus de malades en soins ambulatoires.
Johan Tritz.
Allez, la page culture, direction Lens, où le Louvre a inauguré hier une exposition consacrée à Jean-François Champollion.
Le découvreur de la pierre de Rosette qui déchiffre les hiéroglyphes, c'était il y a 200 ans, hein, mais ça fascine toujours, petits et grands. Le reportage de l'un de nos correspondants dans le Nord, Maximilien Carlier.
Dans le musée, un groupe d'enfants en 6e, les yeux rivés sur un fragment de stèle noire, une copie de la pierre de Rosette. Leïla, médiatrice au Louvre-Lens.
C'est elle, entre autres, qui va permettre de déchiffrer les hiéroglyphes, qui va guider Champollion, finalement, dans sa quête.
Pourquoi moi, j'aime bien. Je trouve ça très intéressant.
Tout me passionne. J'aime beaucoup.
D'autant plus que l'Égypte est dans leur programme scolaire, souligne Lauriane, enseignante en histoire-géographie.
Là, c'est vraiment du concret, pour le coup. On est en dehors du cours. Il faut vraiment voir des choses comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est que l'histoire. Voilà.
Sur place, près de 350 œuvres comme le scribe accroupi ou bien encore la stèle d'Isi. Hélène Bouillon, co-commissaire de l'exposition.
Je pense que tout enfant est fasciné par l'Égypte. Certains grands enfants sont encore fascinés, c'est ceux qui deviennent égyptologues. Et j'espère d'ailleurs qu'on réussira à faire quelques nouveaux égyptologues avec la nouvelle génération qui va visiter l'exposition.
Champollion, la voie des hiéroglyphes est visible jusqu'à la mi-janvier. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Merci Fanny Marceau pour votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne, est l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite.
Europe 1.
Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, fut secrétaire générale du Quai d'Orsay et conseiller de Jacques Chirac.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Maurice Gourdeau-Montagne.
Bonjour.
Se rend-on compte vraiment des conséquences du sabotage des gazoducs Nord Stream? Est-ce que ça peut faire basculer la guerre? Le Kremlin renvoie l'accusation des Occidentaux et pointe du doigt les Américains qui évoquent quant à eux des accusations absurdes. La question est de savoir qui a intérêt à tout cela.
C'est effectivement la question parce que pour la première fois, on voit la guerre du théâtre ukrainien sortir. Alors, quelle est la nature de cet acte? C'est qualifié d'acte de sabotage. Qui a perpétré cette destruction des deux pipelines, Nord Stream 1 qui fonctionne depuis 2011 et Nord Stream 2 qui n'était pas encore en fonctionnement mais dont les essais ont été faits et donc qui est actuellement rempli de gaz. Donc le problème, c'est qu'il va falloir attendre au moins 3 semaines disent les spécialistes, pour vérifier exactement la nature des dommages, et puis il y a la question de comment en est-on arrivé là. Alors est-ce que ça s'est fait par voie de drone aérien? Est-ce que ça s'est fait par des sous-marins? Il paraît difficile d'avoir envoyé des plongeurs à près de 100 mètres de profondeur. Donc qui a fait ça? Est-ce que c'est un État? Est-ce que ça a été sous-traité par un État? Ça va donner lieu, à la demande des Russes, à une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui. La France est en présidence du Conseil de sécurité, alors on dira que le Conseil de sécurité ne sert à rien. Si, ça sera l'occasion d'écouter ce que disent les uns et les autres. Pour le moment, on n'a pas la solution. Mais ce que ça montre, et c'est là où c'est sérieux et où c'est un avertissement pour tout le monde, c'est que cette guerre s'étend et que nos infrastructures sont vulnérables. Donc là, c'est le gaz, ça peut être également des pipelines pétroliers, puisque le transport du pétrole russe se fait toujours par voie de terre, vers certains pays. Ça peut être
des câbles
sous-marins, des câbles optiques, etc. Donc on est dans une situation de vulnérabilité qui ne fait qu'amplifier l'intensité de la guerre et on passe à une phase supérieure.
Phase supérieure, vous venez de dire, Maurice Gourdeau-Montagne, par ce sabotage que le conflit est sorti d'Ukraine?
Le conflit est sorti d'Ukraine, il ne faut pas non plus exagérer. Pour le moment, le conflit est militaire, stricto sensu, est en Ukraine. Mais ça montre bien que toutes les installations qui ont été faites dans le cadre de cette interdépendance économique qui a été construite au cours des décennies passées, est mise en péril. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les dommages sur ces deux pipelines ne sont pas réparables de sitôt. Donc même si on revenait à une situation de paix après un cessez-le-feu et à des réparations sur les dommages qui ont été faits, il faudra sans doute des années pour remettre ces pipes en circulation pour l'hypothèse où la paix reviendrait un jour proche.
Alors, il y a deux événements majeurs, c'est ce sabotage des gazoducs. Il y a aussi les référendums d'annexion. Comment, Maurice Gourdeau-Montagne, va-t-on un jour, prochain ou peut-être lointain, reprendre des territoires annexés par la Russie et considérés comme russes? Est-ce qu'un jour, on pourra espérer les reprendre?
Alors, je crois qu'il faut bien resituer ça dans ce qu'a annoncé le président Poutine. D'une part, devant les déboires qui sont ceux de l'armée russe, incontestablement, qui n'ont pas été prévus, il y a une réorganisation. Et puis, on passe au cran supérieur. Premièrement, on déclarait une mobilisation partielle. 300 000 réservistes, ça ne se passe pas si bien. Néanmoins, ils vont rentrer dans le rang, mais il faudra des semaines et des semaines avant de les envoyer. On fait des référendums. On annonce des référendums sur 4 territoires. Et ces référendums, évidemment, qui sont des référendums truqués, des référendums qui ne sont pas faits selon le droit international, parce que ça existe, les référendums pour des transferts de territoire. On l'a fait en France avec la Sarre en 1955, qui a été restituée à l'Allemagne. Mais là, on se retrouve dans une situation où il y a évidemment une grande majorité de voix positives, ça s'est fait sous la contrainte, et après ça, l'étape suivante, c'est, comme vous le dites, les annexions. Les annexions, ça veut dire effectivement que désormais, ces territoires seront des territoires russes. Et dans la doctrine des Russes, on peut installer ce qu'on veut sur des territoires qui vous appartiennent. Et en revanche, l'Ukraine, désormais, si elle souhaite récupérer ses territoires, s'attaquera à des territoires devenus russes. Et donc, l'intégrité territoriale russe est sacrée. Et c'est là qu'on entre dans le troisième aspect des annonces du président Poutine de la semaine dernière, qui sont le nucléaire. Si vous touchez à mon territoire, à ce moment-là, ce n'est pas du bluff, je peux mettre en œuvre les armes, et nous avons des armes nucléaires supérieures à celles de l'Occident.
Vous avez parlé, Maurice Gourdeau-Montagne, de la mobilisation. Poutine a sonné cette mobilisation partielle. On y voit beaucoup de résistance, c'est réel. Les Occidentaux veulent y voir peut-être un peu plus ou un peu trop. C'est la question que je vous pose. Ils voient un Poutine acculé, peut-être même une forme de révolte, non pas de palais, mais en tous les cas presque un assaut du Kremlin, un Poutine qui pourrait être sorti ou dégagé. Est-ce que c'est un scénario plausible des prochains jours, mois ou années?
Il est certain, pour ce qu'on en sait, que la situation du président Poutine n'est pas celle qu'il aurait souhaité. Il voulait, en 3 semaines, régler le problème de l'Ukraine comme il avait réglé le problème du Kazakhstan quelques mois auparavant. Bon, là, la situation fait que la population russe tout entière est impliquée puisqu'il y a, on parle du mot guerre, et c'est une mobilisation partielle, 300 000 réservistes qui sont appelés. Ce n'est plus une opération spéciale avec quelques conscrits et surtout des contractuels, donc avec une armée professionnelle. Donc là, Poutine se place en responsabilité par rapport à son peuple. Mais ce qui se passe aussi, c'est que la population, qui somme toute était devenue assez indifférente, comme on l'avait pu le constater cet été, assez indifférente au développement de la guerre en Ukraine, sauf pour les familles concernées par, évidemment, des fils ou des parents tués. Mais c'était les contractuels. Donc certains vous diront, vulgairement, c'était le risque du métier. Là, aujourd'hui, c'est la population elle-même. Et donc, on sort de l'indifférence. Et pour la première fois, parce qu'il y a des réseaux sociaux, on sait que la population n'est pas satisfaite. On le voit chez les Russes eux-mêmes. On voit d'ailleurs que ça se passe. On a vu l'affaire du fils Peshkov. Il y a évidemment des gens qui vont être des embusqués, comme on dit dans les guerres chez nous. Et puis, il y a les populations périphériques. Le Daghestan, la Bouriatie, vous avez ces populations de la Fédération de Russie. N'oublions pas que c'est la Russie est un pays multiethnique.
Mais est-ce que c'est un ferment de révolte par rapport au Kremlin et à Poutine ?
Alors, est-ce que c'est un ferment de révolte par rapport au Kremlin ? N'oublions pas qu'on est dans un régime policier et que quand la sécurité intérieure et extérieure est concernée, le régime policier ne fait qu'amplifier ses moyens. Donc pour l'instant, Poutine est là, il n'est pas encore sorti. Vous parlez de révolution de palais, on n'est pas encore dans la révolution de palais.
Il y a l'escalade, nous avons parlé du sabotage, nous avons parlé de ces référendums d'annexion. Il y a quelques mois, quand on vous recevait ici même, Maurice Gourdeau-Montagne, on a reçu également Henri Guénaud, etc., vous faites partie de ceux qui alertent depuis longtemps en disant « Où sont les chercheurs de paix ?» Alors le mot, on ne l'entend plus du tout aujourd'hui de paix.
Le mot « paix » n'est pas... Enfin, il y a eu des recherches de paix. On peut dire que par la manière dont le président de la République a continué à entretenir un dialogue avec le président Poutine est une manière de continuer à maintenir le fil de la paix. C'est comme quand une réunion du Conseil de sécurité a lieu, eh bien, chacun donne un point de vue. On recherche la paix. Mais y a-t-il véritablement des initiatives de paix ? Je ne les vois pas, à part la Chine. Qui, pour ses raisons propres, a parlé d'une recherche de cessez-le-feu nécessaire à partir de maintenant, à part l'Inde, on n'entend pas beaucoup le mot paix parce que, globalement, ce que je crois profondément, c'est que le combat est un combat stratégique entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis veulent défaire stratégiquement la Russie. Et d'ailleurs, on le voit parce que aujourd'hui, les États-Unis viennent de décider encore de livrer des missiles à longue portée, plus d'armes. Donc la guerre se poursuit et défaire la Russie, ça veut dire essayer de casser l'axe entre Pékin et Moscou.
Maurice Gourdeau-Montagne, là, vous nous décrivez une guerre, c'est un face-à-face entre les États-Unis et la Russie. Et où sommes-nous ? Où sont les Européens ? Sont les Américains qui dirigent tout ?
Alors, les Américains ne dirigent pas tout. Les Américains sont dans ce combat stratégique pour affaiblir effectivement l'axe Pékin-Moscou. Nous, les Européens, la France essaie d'exister, l'Europe en tant que telle a adopté les sanctions, l'Europe a ses propres difficultés. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas avoir une voix plus en recherche de la paix ? C'est extrêmement compliqué. Le vrai sujet qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il y a eu une agression d'un pays qui est la Russie, sur un pays indépendant.
Personne ne l'oublie. Mais est-ce que c'est notre intérêt d'affaiblir aussi la Chine ? Ça, c'est l'objectif affiché des Américains. Est-ce que c'est de l'intérêt des Européens et plus singulièrement des Français ?
Il y a un risque aujourd'hui qui est celui d'avoir une présence américaine renforcée en Europe. La méprise du président Poutine, c'est qu'effectivement, au contraire de ce qu'il pensait, il y a aujourd'hui plus de présence américaine sur le continent européen qu'il n'y en avait avant le début de cette intervention militaire et de cette agression en Ukraine. On le voit avec l'OTAN, 23 pays désormais sur 27 sont membres de l'OTAN. On le voit avec les livraisons d'énergie, de gaz naturel liquéfié qui viendront des États-Unis. Bref, le levier américain sur le continent européen et sur l'Union européenne est beaucoup plus fort que jamais. Alors, est-ce que nous ne devrions pas, en Europe, rechercher un contact plus précis avec ceux qui sont en dehors ? Je pense à cette théorie qui s'appelle maintenant et qui est définie par les Indiens, qui s'appelle non pas le non-alignement, mais le multi-alignement. Multi-alignement, c'est-à-dire que beaucoup de pays, l'Inde, la Turquie en tête, vont là où c'est le plus intéressant pour elles, pour ces pays, pour les populations. Je vois le président de l'Indonésie qui dit, moi, la guerre en Ukraine ne me concerne pas, c'est l'inflation et nourrir mon peuple qui sont mes deux priorités. Nous avons une priorité qui est une priorité sur notre sol européen, qui est d'avoir la paix. Donc ça s'ajoute, je dirais, à ces préoccupations-là, bien entendu. Mais est-ce que nous ne devrions pas nous déployer plus sur d'autres terrains ?
En posant la question, vous donnez la réponse.
J'entends parler néanmoins...
C'est-à-dire, la question, Maurice Gourdeau-Montagne, je vous la pose directement, est-ce qu'on ne se réunit qu'avec ceux qui ont le même avis que nous, les Européens ? Est-ce qu'on voit aussi le reste du monde à part notre nombril d'occidental ?
Je crois que le risque que nous avons tous, c'est de voir cette crise à travers un européano-centrisme trop important. Il faut essayer de voir à travers le point de vue des autres. La France essaye de le faire. L'Assemblée générale des Nations unies a été l'occasion de multiples contacts. Mais est-ce qu'il n'y a pas utilité à un moment ou à un autre, qui n'est peut-être pas mûr, et je sais que nos diplomates y travaillent, notre diplomatie y travaille, d'amplifier le contact avec des grands partenaires qui, eux, sont entre les deux et n'ont pas pris parti ni pour l'un ni pour l'autre.
Vous faites partie, Maurice Gourde-Montagne, des diplomates qui ont connu vraiment toutes les, j'allais dire, les conflits contemporains, les grandes crises, les tensions. Vous avez été conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Comment on est vu, comment on est appréhendé aujourd'hui, je veux dire, par le reste du monde, par les Africains, par les pays arabes. Hier, ici, à ce micro, l'historien Jean-François Colosimo dit attention, est-ce qu'on n'a pas perdu ce qui nous singulariser la France, c'est-à-dire cet équilibre, cette manière de regarder le monde différemment.
Alors la France continue à se vouloir puissance d'équilibre. Il faut avoir les moyens d'être une puissance d'équilibre, il faut savoir parler avec tout le monde, ce que nous essayons de faire. Le faisons-nous suffisamment? Je me pose la question, je crois qu'il y a aujourd'hui des différences, il y a une manière de voir le monde différemment. L'interprétation du monde par les Occidentaux n'est pas la manière dont le monde est vu par les autres. Est-ce que nous ne sommes pas assez proches Alors nous essayons de le faire, mais je crois qu'à certains moments, il est important de savoir se sortir du lot.
Qu'est-ce qu'on nous reproche ?
Et prendre du surplomb, comme le président Chirac l'avait fait avec la guerre en Irak, être capable de dire « non, je ne vous suis pas parce que vos intérêts ne recouvrent pas exactement les miens, et donc j'ai mes intérêts avant les vôtres ».
Comment les Africains dans les pays arabes nous perçoivent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent ?
Je pense qu'ils nous reprochent, c'est très difficile à dire parce que nos efforts sont considérables dans tous ces pays, mais ils nous reprochent sans doute un manque d'écoute. Est-ce que nous nous mettons dans la peau de ceux qui sont en face de nous? Est-ce que nous prenons assez en compte ce que j'appelle la transition générationnelle, qui est très importante? On la voit partout. Aujourd'hui, il y a de nouvelles générations qui arrivent au pouvoir. Dans un certain nombre de pays, ce sont les générations post-indépendance. On le voit en Chine, c'est la génération de l'enfant unique qui arrive au pouvoir. Bref, les catégories de pensée dans lesquelles nous avons travaillé pendant des décennies, aujourd'hui, sont en train de passer de mode. Et donc, il faut savoir s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui et pas au monde dans lequel nous avons appris à être dans le passé et qui est en train de disparaître.
Y a-t-il aussi un risque de voir ou de traiter les choses, les événements avec une géométrie variable, dirons-nous ? Je pose la question depuis quelques jours sur un autre conflit, par exemple Maurice Gourde-Montagne, ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conflit un peu oublié dont on parle peu. Est-ce que nous sommes coupables d'être trop prudents, pas assez audibles sur ce conflit et finalement de ne pas taper du poing sur la table puisque nous avons signé, nous Européens, un contrat pour le gaz avec l'Azerbaïdjan qui s'essuie les pieds sur la souveraineté arménienne. Comment faire dans ce cas-là pour donner des leçons ailleurs ?
Alors le vrai sujet, vous l'avez mentionné, c'est la géométrie variable. Nous sommes souvent perçus par beaucoup de pays, le reste du monde, je dirais, qui n'est pas le monde occidental, qui n'est pas le monde de l'OCDE dans lequel nous appartenons. Mmh. Finalement, c'est cette vingtaine de pays qui fonctionnent avec des règles de gouvernance pas mal, mais qui ne s'applique pas au reste du monde. Et nous cherchons à appliquer à d'autres des règles que nous n'appliquons pas à nous-mêmes. Et je pense en particulier dans le conflit ukrainien, nous cherchons à appliquer à la Russie, l'agresseur, des règles que nous n'avons pas appliquées aux États-Unis, agresseurs en Irak, par exemple. Il y a eu la Libye, il y a le Yémen, il y a le conflit du Tigré, qui est un conflit interne à l'Éthiopie. Mm-hmm. Néanmoins, nous sommes perçus comme des pays à géométrie variable. Et nous sommes perçus comme un pays qui s'intéresse plus à sa proximité, qu'à, je dirais, d'autres conflits aussi, tout aussi importants. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est un conflit qui, comme le conflit ukrainien, résulte du découpage des ex-républiques soviétiques tel qu'il a été décidé dans les années 30 par Staline. Et le seul objectif de l'époque, c'était effectivement de créer la division à l'intérieur de ces républiques soviétiques pour éviter les phénomènes nationalistes. Et donc, dans la situation, vous avez effectivement des Arméniens en Azerbaïdjan et des situations inextricables comme celle du Nagorno-Karabakh. La France est très impliquée. La France considère généralement que l'Arménie est une sorte de cause nationale. Nous avons en France des Arméniens qui sont des citoyens français qui vivent ça dans leur chair après le génocide. Et donc, il est important de reprendre l'initiative diplomatique, notamment à travers le fameux groupe de Minsk, un autre groupe de Minsk, dans lequel nous sommes responsables avec les Russes et les Américains, et de faire en sorte que les suites du conflit de 2020, qui a tendance à reprendre maintenant avec un certain, avec des morts, eh bien, que ce conflit s'arrête sur la base de négociations entre Azerbaïdjan et Arménie.
Et ainsi, nous retrouverons la France puissance d'équilibre comme autrefois quand vous étiez conseiller de Jacques Chirac notamment. Merci Maurice Gourdeau-Montagne, merci à vous pour cet éclairage. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Merci Maurice Gourdeau-Montagne, merci Sonia Mabrouk. À suivre sur Europe 1, Emmanuel Ducrot comme tous les jours et Géraldine Vosner ce matin, notre signature Europe 1 du jour qui va nous parler de l'impasse du haut de gamme à la française dans un certain nombre de filières, en commençant par l'agriculture. Tiens, 8h29.
7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h32, le rappel de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamarre.
Une concertation puis un projet de loi sur les réformes des retraites avant la fin de l'hiver. Matignon confirme les informations d'Europe 1. Le gouvernement va ouvrir une phase de discussion de 3 mois sur la base des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. La question d'un report de l'âge légal de départ à 65 ans reste d'actualité. Une réforme des retraites dont ne veulent pas les syndicats. 3 d'entre eux appellent à manifester aujourd'hui partout en France. Rassemblement doublé d'une grève des enseignants, grève aussi dans les transports, perturbations à prévoir dans le RER et sur les lignes intercités. À la RATP, le trafic annoncé comme normal dans le métro et sur le RER A. Des inondations qualifiées de catastrophiques et des rafales de vent supérieures à 200 km/h. L'ouragan Yann a touché la Floride, il a entraîné la mer dans son sillage et provoqué une brusque montée des eaux jusqu'à 3,70 m par endroit. Plus de 2 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Une quatrième fuite identifiée sur les gazoducs de la mer Baltique, information des gardes-côtes suédois, alors qu'une enquête pour identifier l'origine et l'identité du coupable est en cours. La piste du sabotage est désormais privilégiée. Washington et Moscou s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Enfin, le mondial féminin de basket. La France va tenter de se qualifier pour les demi-finales ce matin face à la Chine. Match prévu à 10h heure française. Le Canada et les États-Unis sont déjà qualifiés et se disputeront une place en finale demain.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Le temps, Anissa Haddadi, moins de pluie, mais de la fraîcheur.
Oula, les températures sont fraîches ce matin. On a 2 degrés à Charleville-Mézières, on a 8 degrés à Paris et 17 à Nice. L'amplitude est assez impressionnante et cet après-midi va faire frais avec 12 pour Belfort, 14 à Aurillac, 16 degrés seulement à Paris, Lille et Lyon, 21 degrés à Toulon, 23 pour Ajaccio et 25 à Bastia. Ça baisse partout. Alors pour le ciel, je vous rappelle que les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange, pluie, inondation, avec des pluies soutenues et localement des coups de tonnerre sur les Pyrénées. Ça va durer toute la journée. Les pluies remontent jusqu'en Franche-Comté, en passant par l'Auvergne et les Alpes. Elles seront soutenues ce matin. Et puis, vous le disiez, Dimitri, un peu moins de pluie. Ça, c'est pour cet après-midi. Effectivement, ça va aller un petit peu mieux dans le ciel. On va voir un petit peu plus de soleil sur les 3/4 de la France. Ça reste pluvieux sur la Normandie et la Bretagne, avec là aussi des orages localement assez fort. Et puis les Pyrénées-Atlantiques toujours sous l'eau. Le vent souffle en Méditerranée, 70 km/h et 90 km/h sur la Corse.
Merci beaucoup Anissa. 8h34,
7h, 9h,
Europe Matin.
Et place aux signatures Europe 1, nos drôles de dames du jeudi. Bonjour Géraldine Vosner.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et Emmanuel Ducrot dans un instant. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour Géraldine et bonjour à tous.
Avec ce matin une histoire incroyable, encore un drame de la scolarité à la française concernant des enfants sourds. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir de cette histoire. Soyez là, c'est dans 3 minutes. Mais d'abord Géraldine, vous nous parlez ce matin de l'échec cuisant des politiques d'excellence française.
Oui, parce qu'on peut ressentir un léger agacement à entendre nos politiques gloser sur l'excellence française, un peu comme des enfants qui se racontent une fable au moment même où nos fondations craquent de partout. Crise de l'énergie, de l'alimentation, de la dette, et on les voit courir d'un événement à l'autre. Emmanuel Macron, tenez, la semaine dernière, nous parle d'excellence devant des éoliennes qui ont mis 12 ans à pousser dans la baie de Saint-Nazaire et dont pas une, Dimitri, n'est fabriquée en France. Elles y sont simplement assemblées. Hier, Elisabeth Borne nous vante l'excellence de la filière française de l'hydrogène bas carbone. Une filière qui n'existe pas, on lance à peine les projets. Et puis, en début de semaine, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, célèbre l'excellence de nos filières agricoles, annonce un plan pour reconquérir notre souveraineté, un de plus. Alors, je vais être sévère, hein, mais l'excellence française, moi, je ne la vois pas.
Alors, en effet, vous êtes dur. Notre agriculture, par exemple, ça, c'est un domaine d'excellence reconnu. Alors, je fais quand même attention à ce que je dis parce que j'ai 2 expertes autour de moi sur ces sujets-là.
Oui, mais attendez, nos agriculteurs sont excellents, comme d'ailleurs nos artisans, nos ingénieurs. Mais nos élites, nos politiques, à chaque fois depuis 30 ans qu'ils ont voulu faire des plans pour porter cette excellence, ils se sont tragiquement plantés. Un rapport rendu hier par le Sénat l'illustre à la perfection dans le domaine agricole. La France, pays choyé par son son climat, ses terres, grande nation productrice, est passée en 20 ans au 6e rang d'exportateur mondial, alors qu'elle était 2e. Les importations explose, on ne produit plus assez pour nous nourrir. La décroissance finalement dont personne ne veut mais dont tout le monde parle, ben, on est en train de la faire sans le faire exprès, oui. Quasiment par bêtise.
Ça n'était pas l'objectif, la décroissance. Hein.
Non, mais nos politiques ont voulu l'excellence. Quand les marchés se sont ouverts, que la mondialisation a mis les pays en concurrence, on s'est aperçu que notre modèle était coûteux. Mais plutôt que de le réformer, de réduire nos charges, notre fiscalité, nos élites ont dit, ben non, la solution c'est de monter en gamme, de produire mieux que les autres, comme ça on vendra plus cher. On a augmenté les contraintes, alourdi toutes les normes européennes. Un exemple, hein, l'Europe autorise 450 pesticides, ben la France c'est 310. Résultat, les rendements ont baissé, les coûts se sont envolés, la pomme qu'on exportait en masse, on l'importe maintenant, notre production a baissé de moitié. Alors elle est excellente hein, cette pomme, oui. Mais ben, elle ne se vend pas parce qu'elle coûte un tiers plus cher que la pomme allemande, deux fois plus cher que la pomme polonaise qui inonde notre marché. On a fait pareil avec la tomate, le poulet, tout un tas de produits. Une vraie fracture se crée dans la population. Et pour nos agriculteurs, ben c'est perdant-perdant.
Oui, est-ce que c'est un mal exclusivement français, Géraldine ?
Ah oui, on est les seuls à avoir poussé aussi loin cette mythologie de l'excellence parce qu'elle évitait des réformes compliquées. C'était plus facile de dire aux industriels du textile, par exemple, bah, délocalisez, centrez-vous sur le haut de gamme. En gros, les Chinois feront nos chaussettes et nous, on fera des fusées. Résultat, la Chine fait des chaussettes et des fusées et nous avons détruit notre industrie. Je passe sur le racisme culturel qu'il y a dans cette politique et qui perdure dans cette forme de snobisme récurrent dans les discours, comme si nos élites voyaient toujours la France telle qu'elle était il y a 3 siècles. C'est le luxe, la cour, c'est Versailles. Ça l'est toujours, bien sûr. Il ne faut pas abandonner le luxe.
Bah oui, mais c'est pas... ça marche très bien.
Oui, mais ce n'est pas une vision lucide, Dimitri. La France est une puissance moyenne aujourd'hui qui a de graves problèmes de compétences. On le voit avec l'état de notre parc nucléaire. Pour espérer l'excellence de il faudra d'abord être capable de former une armée d'ingénieurs d'élite.
Oui. Moi, je dis souvent, on veut faire de l'alimentation haut de gamme et des voitures moyenne gamme. Les Allemands, ils font le contraire et ça réussit dans les deux cas pour eux. Merci Géraldine Vosner. Emmanuel Ducrot, bon, en plus, ça, c'est des sujets que vous connaissez par cœur. Je vous ai vu opiner du chef tout au long de la chronique de Géraldine. Mais ce matin, vous nous emmenez alors dans un voyage administratif, mais alors d'une absurdité ahurissante. C'est une de ces situations insolubles où tous les protagonistes se renvoient la balle. C'est la scolarité des enfants sourds qui se retrouvent menacés. Mais quelle est cette histoire ?
Alors c'est une histoire, c'est l'histoire d'une association normande qui s'appelle APEDAC, Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados. Une association qui a près de 40 ans et son objectif, c'est de salarier des codeurs. Alors il faut que je vous explique un peu ce que sont les codeurs. Oui. Ce sont des aidants qui sont formés à Bac plus 3, il y a un diplôme pour ça. Leur travail, c'est d'accompagner les enfants sourds en classe avec la langue articulée complétée. Alors, ils aident des enfants qui parlent et qui lisent sur les lèvres avec des gestes. C'est une méthode qu'il ne faut pas confondre avec la langue des signes. Là, ils traduisent, ils appuient les propos du professeur et puis tout le reste autour, hein, les blagues des copains, ça permet aux enfants sourds d'être dans un bain sonore. Ils sont les oreilles des enfants sourds, 12 à 15 heures par semaine. APEDAC emploie comme ça 8 codeurs qui aident 18 enfants de la maternelle au lycée et jusqu'à l'alternance.
Ce ne sont donc pas des informaticiens, nos codeurs.
Rien à voir.
Bon, c'est efficace ? Ils sont efficaces, ces gens-là ?
Eh bien, cette association est un modèle pour la scolarisation des enfants sourds. Ils réussissent très bien, ils passent le brevet, le bac. Ils entament même des études supérieures, ce qui serait absolument impossible sans les codeurs.
Mais alors, où est le mais dans cette histoire ?
Ben oui, il y a toujours un mais. Cette association dépend depuis toujours de subventions versées par le département du Calvados et la région Normandie. Respectivement, 75 000 et 40 000 euros en 2022. On est pas sur des sommes folles, mais il y a quelques jours, elle a appris que c'était fini, les subventions.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ?
Eh bien, à vrai dire, l'enseignement des enfants sourds ne relève pas du département ou de la région. C'était une démarche volontaire de ces collectivités territoriales de soutenir l'APEDAC. Mais les finances locales étant ce qu'elles sont, elles font des économies. Le département explique qu'il alerte depuis 2017 sur le fait qu'il veut arrêter cette subvention, qu'il a multiplié les courriers au ministère de l'Éducation, au rectorat et même à l'Agence régionale de santé pour trouver un relais à son financement.
Ils ont sonné à toutes les portes.
Ils ont sonné à toutes les portes et tout le monde se renvoie la balle et personne ne répond à l'APEDAC.
Bon. Bon, c'est un vrai sac de nœuds, cette histoire.
Eh bien oui, les enfants sourds sont dans un angle mort des dispositifs d'aide. Déjà parce que le primaire, ça dépend des communes, les collèges, des départements, les lycées des régions, donc tout le monde se renvoie un peu la balle. Ensuite, parce que l'éducation nationale n'a rien de prévu pour les codeurs. Elle ne prend en compte que l'autre méthode de communication des personnes sourdes, c'est-à-dire la langue des signes. Les codeurs ne relèvent pas non plus des AESH, vous savez, ces assistants qui accompagnent les enfants handicapés à l'école et dont l'État a dit qu'il allait recruter 4000 personnes de plus. Personne ne veut financer. Une responsable de formation m'a dit hier cette phrase qui m'a crevé le cœur. Vous savez, les enfants sourds ne font pas de bruit, ils ne perturbent pas la classe. Mmh. C'est facile de les ignorer, on les laisse simplement dans un coin.
Bon, conséquence de cette histoire ?
Eh bien, 18 gamins qui se retrouveront à l'école en silence à la rentrée de janvier. Des gamins aujourd'hui en panique, qui ont peur d'être déscolarisés parce qu'on n'a pas trouvé l'équivalent de 6 388 € par enfant et par an. Alors, il reste un petit espoir. Hein. Le rectorat m'a indiqué hier qu'il allait recevoir la directrice de la association. Mais comme la communication passe décidément très mal dans cette affaire, elle n'avait même pas été mise au courant.
La directrice de l'association ne savait pas qu'elle avait rendez-vous ?
C'est moi qui lui ai appris.
Dialogue de sourds, donc. Tiens, l'APEDAC, c'est quoi ? C'est 120 000 euros dont ils ont besoin ?
À la louche.
C'est pas beaucoup, hein. Franchement, c'est pas énorme. Bon, alors, je sais pas, auditeurs d'Europe 1, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ça s'appelle l'APEDAC. Formidable, incroyable histoire. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Voilà, c'est sur Europe 1 que vous entendez ce genre d'histoire. Dans un instant, merci Géraldine Vosner aussi. À la semaine prochaine. À suivre, c'est Catherine Ney qui sera avec nous demain matin, je vous le signale. À suivre, le club de la presse Europe 1, Charlotte Dornet, Las Valeurs Actuelles, Carole Barjon de l'Obs. On va parler de ce rapport sénatorial dénonçant une porno-pandémie chez nos jeunes. À tout de suite.
Dimitri Pavlenko.
Après les professionnels de l'enfance qui dénonçaient récemment une porno-pandémie. Voilà, c'est le premier rapport parlementaire sur le sujet intitulé « Porno, l'enfer du décor hein. ». Vous avez noté le jeu de mots, rapport choc sur une industrie florissante, mais qui fait des ravages dans la jeunesse. Ce rapport sur l'industrie pornographique dresse un état des lieux assez stupéfiant. Sachez que 2/3 des moins de 15 ans, 1/3 des enfants de moins de 12 ans vont régulièrement consulter un site pornographique. L'audience de Pornhub, donc c'est le plus gros agrégateur de vidéos pornographiques sur Internet, 17% son audience. Ce sont des mineurs. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Carole Barjon.
Bonjour Dimitri.
De l'Obs, merci d'être avec nous. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Voilà, ce rapport, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire. Il est paru mardi, il est public, hein, vous pouvez le consulter, rédigé. Alors, il faut le dire aussi par 4 femmes. À titre personnel, je note quand même j'ai oublié le mot. Un jargon c'est pas un jargon, c'est pas ça, c'est pas le mot. Un vocabulaire assez empreint de féminisme, mais malgré tout les faits dénoncés par ce rapport sont assez stupéfiants. Carole, quand on parle de porno-pandémie, est-ce qu'on va trop loin ou est-ce que c'est à la mesure de la situation ?
Moi, je crois qu'on va pas. Ces sénatrices ne vont pas trop loin du tout. Je suis plutôt d'ailleurs quand on dit que c'est stupéfiant, puisqu'elles ont l'air même. Enfin, c'est le constat qu'elles font.
Elles sont révoltées, il faut
mais,
le dire.
Oui, mais pardon. Moi, ce que je trouve stupéfiant,
c'est qu'il
ait fallu 20 ans. ou plus, ça fait quand même des décennies que tous les pédopsychiatres alertent sur les ravages que produisent ces vidéos pornographiques auxquelles peuvent accéder les enfants très facilement. Hein, vous parliez de 1/3 des mineurs de moins de 12 ans, c'est quand même énorme. Donc on le sait depuis maintenant longtemps. Donc il n'y a jamais eu aucune volonté politique de s'attaquer à ça. Pourquoi ? Parce qu'on connaît, hein, c'est la liberté d'expression, éventuellement même concernant le cinéma porno, c'était la liberté artistique, enfin c'était ce genre d'argument.
On vivait encore sur Emmanuel et Histoire d'eau, voilà, une vision de la pornographie
ça,
un peu datée.
Cinéma érotique, on va dire, ça n'a rien à voir avec ce que décrivent effectivement formidablement ces sénatrices, c'est-à-dire une extrême violence.
Ce qu'elle dit, c'est que le porno, en fait, a changé. Par exemple, elle souligne la domination des scénarios qui relèvent des crimes et délits. Inceste, viol, y compris sur mineurs. On est très loin de la cassette vidéo qui circulait sous les manteaux dans les années 80-90. C'est ça, Charlotte.
Je pense que ce basculement, il n'a pas été compris par certains parents, d'abord, qui se rappellent, quand ils étaient jeunes, en cachette, le magazine qui se refilait au collège. On a changé de monde, mais genre vraiment, on a changé de monde. Alors, en effet, on se dit, c'est un peu tard parce que ça fait des années. Et franchement, pendant des années, il faut rendre justice aussi à ceux qui ont essayé d'alerter, les pédopsychiatres, les addictologues qui essaient de soigner les enfants et les gens qui, dans le débat public, se sont inquiétés de ça, qui étaient des vieux réacs qui saoulent et qui font de la moraline.
Ou perçus comme tels.
Oui, enfin, accusés de ça. Hein, je veux dire, c'est pas moi qui les accuse, mais ils étaient accusés de ça en retour. Or, c'est un drame à tous les niveaux parce que ce rapport pointe plusieurs sujets. En effet, le drame pour les enfants. Et les enfants, les conséquences, c'est d'abord une vie affective déglinguée, une conception de la sexualité complètement virtuelle. Donc, la réalité est décevante à tous les coups.
Les normes du porno colonisent les esprits.
Mais bien sûr, évidemment. Quand vous avez un petit cerveau d'enfant qui découvre à la fois son corps et celui de l'autre par le biais de la pornographie, avec, vous savez, ce principe que pour... puisque le but de la pornographie étant la masturbation, pour arriver à son but, il faut toujours plus trash, toujours plus de détails, et on en arrive à des vidéos qui ont un énorme succès, qui sont l'inceste, le viol, la zoopornographie, la pédopornographie, la zoophilie. Enfin, vous avez des horreurs absolues. Et donc, il y a ce drame-là sur le cerveau des enfants. Sur les adultes, elles abordent aussi la chose. C'est-à-dire que les adultes, c'est pareil, ils vont toujours plus loin. Donc, ils consomment des vidéos dans lesquelles qui sont faites par des gamines qui sont réduites en esclavage pour rien. Tous ces témoignages, on les a depuis longtemps. Ces quatre sénatrices ont l'énorme avantage, et franchement, moi, je les remercie, d'aller au bout, décrire dans le détail et de faire un travail sénatorial. On le sait, c'est toujours un travail très précis. Et franchement, merci à elles.
Ce rapport tombe d'ailleurs au moment où plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours. Il y a cette affaire Jackie et Michel, une autre affaire French Bukak. Vous avez trois acteurs, un réalisateur en garde à vue. Vous parliez d'esclavage. Ces hommes sont accusés de traite d'êtres humains aggravés, de viol en réunion, de proxénétisme aggravé.
Oui.
Voilà, on en est là quand même. Alors, ça dit quelque chose aussi de l'évolution de l'industrie de la pornographie, Carole Bargeon. Qu'est-ce qu'on
peut en dire ? Qui a pris des proportions absolument énormes. Oui. Je crois qu'il y a 5 grands sites dans le monde.
Ah bah, le porno, c'est 35% du trafic internet mondial. Voilà.
Mais la question maintenant, c'est comment empêcher ça ? Enfin, comment est-ce qu'on peut empêcher ça ? C'est
réguler l'accès à cette
très
pornographie.
Très compliqué, limiter l'accès, en tout cas pour les mineurs. La justice en France a pris une décision un peu bizarre récemment, puisque y avait l'un de ces sites qui était mis en demeure en fait de faire cesser, de limiter l'accès aux mineurs, et en fait l'ARCOM qui est l'autorité de régulation
des médias et d'internet, c'est l'ex-Adopi fusionné avec le CSA.
Avec le CSA, exactement, voulait les mettre en demeure, enfin voulait que ce soit exécuté, et la justice a préféré une médiation. Bon, il se trouve que l'affaire sera réglée la semaine prochaine, puisque je crois qu'il y a une nouvelle audience le 4 octobre.
Mais comment on régule l'accès à un site web où il suffit de dire « oui, j'ai 18 ans », il suffit de cliquer
et
sur...
Eh bien voilà, c'est tout le problème. Donc même le Sénat avait reconnu que c'était assez difficile, entre la nécessité de limiter l'accès aux mineurs et l'intrusion un peu dans la vie privée.
Ah oui. Si on doit présenter sa carte d'identité.
Avoir accès à des données privées, finalement, etc. Bon, au Canada, ils ont eu à combattre un énorme site porno dont j'oublie le nom à l'instant, excusez-moi. Mais la conclusion des parlementaires canadiens, c'était qu'il fallait taper au portefeuille très, très, très fort.
Comment on tape au portefeuille ?
Eh bien, le principe,
c'est-à-dire,
qui prévaut aujourd'hui, c'est que, en fait, ce sont les sites eux-mêmes qui doivent trouver les moyens.
D'accord. Mais on a quand même un problème, parce que ces plateformes-là, Pornhub, etc., sont rarement françaises. Ce sont des agrégateurs.
Elles sont domiciliées au Luxembourg, généralement.
Voilà, etc. Oui. Est-ce que ces sites sont à la portée de la justice française ? C'est aussi ça. Il se pose ces questions-là, d'une manière très concrète.
Oui, mais le principe, c'est quand même que ce sont les sites eux-mêmes qui doivent trouver les moyens de limiter l'accès. En général, ils ont parfaitement réussi à le faire pour ce qui concerne le terrorisme ou des choses comme ça. Donc, on imagine que s'ils y mettent un peu de bonne volonté et qu'ils mettent des spécialistes informatiques, parce qu'ils en ont déjà un certain nombre, s'ils en mettent davantage, ils trouveront peut-être la solution. S'il y a une menace, ou bien de sanctions financières, ou bien, et c'est ce qui a été évoqué aussi, je crois, au Canada, faire une qualification de proxénétisme.
Oui. Alors voilà, elle dit, ces sénatrices, ça doit devenir une priorité de politique publique et pénale. Sûr. Alors surtout dans un objectif de protection des mineurs, elles disent que c'est l'urgence immédiate.
Hein. Oui, des mineurs et des acteurs ou actrices qui sont en effet mis dans des situations absolument abominables. D'abord, la première chose, c'est traquer n'importe quelle vidéo qui... Parce que la caractéristique du porno, c'est que tout est joué réellement par des vrais gens. En fait, donc quand vous voyez une gamine qui se fait violer par 40 mecs, elle l'a joué, la gamine, en fait. Et ça, il faut le traquer. Et ces vidéos...
Mais c'est sans effets spéciaux, c'est ça.
Oui, c'est sans effets spéciaux. Ouais. Donc que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, on s'en fiche, en fait. Il faut évidemment traquer ces plateformes-là. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le procès que vous évoquiez, notamment Jackie et Michel et compagnie. Et pour
c'est
le
pas
reste...
encore les procès. On est encore au stade de l'enquête. Hein,
pour, oui, mais il y a un procès là qui est annoncé, je ne sais plus quand. Et pour le reste, en effet, la question de l'ARCOM, il y a par exemple Twitter qui est aujourd'hui, l'ARCOM s'est penché sur le cas de Twitter parce qu'il y a des associations de protection de l'enfance qui disent qu'il y a un contenu absolument atroce qui est accessible aux mineurs. Twitter, je rappelle, ils sont capables de vous faire sauter n'importe quel tweet pour les raisons de politique interne, c'est-à-dire en général très idéologique. Et là-dessus, il n'y a pas un mot dans leurs conditions d'utilisation. Donc il y a un moment où vous pouvez les contraindre. Et je note que les parlementaires ont voté une loi l'année dernière, les parlementaires français, disant si vous ne trouvez pas les moyens de rendre inaccessibles au minimum aux mineurs les contenus pornographiques, vous serez fermés par le biais des fournisseurs d'accès. Et ça, on peut le faire. Donc, puisque c'est une question de santé publique gravissime, franchement, quand vous voyez les conséquences, c'est grave. Vraiment, il faut s'y mettre, vraiment.
Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on parle de ces grandes plateformes, ces grands agrégateurs qui ne produisent pas, mais qui ne font qu'agglomérer des vidéos produites par d'autres. Imaginons qu'on les ferme, la pornographie se réinventera et on envoie du porno en circuit court aujourd'hui via d'autres plateformes où des acteurs, des actrices vont produire en direct un contenu et le proposer en direct contre paiement à des fans, etc. Carole Bargeon, lutte sans fin. Lutte sans fin.
Oui et non, parce que...
Enfin, ce sera plus difficile d'y accéder pour des mineurs, forcément. Oui,
oui, mais c'est ça l'essentiel quand même. Mmh. Enfin, c'est quand même le premier des combats à mener. Mmh. Et il est absolument capital, parce que, voilà, Charlotte a très bien expliqué les conséquences que ça a sur la sexualité de jeunes adultes ensuite. Et pour ça, il faut une volonté politique de faire. Et au fond, Emmanuel Macron, qui cherche des sujets consensuels... Que tous les groupes pourraient voter, ben je pense que c'est un sujet tout trouvé.
Merci.
Mais pareil, changer aussi le discours sur la chose. Parfois, dans la vie politique, on s'imagine, il y a encore un peu un discours, c'est ça, quand on était jeune, c'est sympa, quoi, mais les films que les hommes politiques, qu'une classe d'âge a vu quand ils étaient jeunes, je veux dire, c'est la mélodie du bonheur, hein, par rapport à ce que regardent les gamins aujourd'hui. Non, mais vraiment, je pense que c'est à la fois le regard et surtout la prévention à la fois des enfants dans les collèges, et c'est très important, elles insistent là-dessus, mais des parents. Faites attention à vos enfants, c'est évidemment la première chose. Faites attention à vos enfants et prenez pas le truc à la légère parce que les conséquences sont gravissimes.
Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Carole Bargeon de l'Obs. Merci à toutes les deux. Merci. À lundi, on vous retrouve en binôme lundi prochain, 8h56 sur Europe 1. Dans un instant, Culture Média sur Europe 1. Bonjour Thomas Hill.
Bonjour Dimitri, vous allez bien?
Très bien. Encore
un programme s'est bien passé.
Mais comme toujours.
Bien sûr.
Surtout que c'est vous qui prenez le relais.
Mais oui, on a un programme de choix, hein, puisque on parlera du mot diversité qui est partout dans les médias actuellement. Qu'est-ce que ça recouvre exactement et jusqu'où ça va justement, la diversité? Eh bien, on sera avec la première chargée de la diversité à l'AFP, Jessica Lopez, qui viendra nous répondre. Et puis, on recevra ensuite une humoriste qui réalise, elle, sa première série, c'est Melabedia. Et puis ensuite, à partir de 10h, c'est la comédienne Anna Moudlalis qui sera à mes côtés pour parler un peu de théâtre. Et puis, comme chaque jour, toutes les infos, médias, les indispensables culturels, et puis la chronique de Jean-Luc Lemoyne.
Melabedia, c'est un rapport avec Ramzi Bedia?
Exactement, c'est sa sœur.
Ah bah voilà, c'est la sœur de Ramzi, de Eric et Ramzi.
Voilà,
comme ça, on a l'arbre généalogique. Merci beaucoup Thomas. Bonne émission, on se retrouve demain matin dans Europe Matin. À midi, vous retrouvez Romain Desarbres pour l'info. Ça n'arrête jamais sur Europe 1. À demain matin. Bye bye.